This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2012 et c'est l'épisode numéro 78. Et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de toute l'actualité technologique, internet, gadgets et toutes sortes de choses intéressantes comme par exemple au hasard la téléphonie mobile. Il y a aussi le CES qui vient de se terminer à Las Vegas. On va peut-être vous parler aussi d'une ou deux autres petites choses. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va passer un excellent moment puisque, comme je le disais à la chatroom réunie et fervente, on a Yann Allais qui est là comme tous les mois, enfin un épisode sur deux pour discuter l'actu avec tout, enfin presque un épisode sur deux. Là, t'as réussi
ouais,
à
presque,
être là.
Presque. Salut la chatroom.
Merci à toi d'avoir couru comme un fou pour être là à l'heure.
Ouais, ça n'a pas été évident, mais je suis là, je suis content.
On rappelle aux auditeurs que tu es à Montréal, donc ça sera peut-être important pour certaines des remarques qu'on fera tout à l'heure dans l'émission.
Très certainement.
Et on a malheureusement pas Jeff qui était occupé aujourd'hui, notre camarade de la Silicon Valley. Et encore une fois, comme je le disais à la chatroom, pour le remplacer, on a sorti notre Cédric Bonnet national. On l'a fait infuser 2 minutes dans de l'eau chaude et il est prêt à l'emploi.
Ah ouais, clair.
Tu vas bien Cédric ?
Bah ouais, très bien, parfaitement bien.
Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de t'avoir.
Mais est-ce que tu as remarqué quand même à quelle vitesse je t'ai répondu ?
J'ai remarqué, oui, quand même. En fait, je crois que ça avait à voir avec le fait que j'ai mentionné un certain nouvel opérateur de téléphonie mobile.
Ah, c'est clair.
C'est possible. On va avoir une bonne discussion en tout cas. Et pour nous écouter et nous prévenir quand on dit des bêtises, il y a la chatroom qui peut nous regarder en direct grâce à notre partenaire Ustream, enfin en tout cas notre camarade Ustream qui nous offre la chaîne de diffusion en live sans pub et sans interruption. Donc merci à eux de Ustream de nous offrir cette chaîne et merci à vous tous de la chatroom qui êtes présents. Ils sont assez nombreux aujourd'hui, je pense qu'il y a des news intéressantes et ils veulent savoir avant tout le monde ce qu'on en pense. Donc évidemment, on va parler de Free Mobile, mais pas tout de suite. Non, je déconne, on va pas vous faire attendre.
À direct, toi, comme ça, à froid, là, de Free Mobile.
Bah écoute, en fait, je pensais parler du CES de Las Vegas. Comme tous les ans, le CES, c'est l'énorme salon qui ouvre l'année en beauté. Cette année, ça a peut-être pas été tout à fait vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a eu un événement important dans l'actu tech en France, c'était Free Mobile. Ça, c'est sans aucun doute, ça a explosé toutes les autres informations de l'actualité tech de ces 2 dernières semaines.
Ouais, enfin, il y avait quand même la nouvelle box de Numéricable.
Ah bah écoute, la nouvelle box de Numéricable, effectivement, qui a été annoncée aussi, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes équipes de communication, on va dire, hein, parce que elle a pas fait tout à fait le même buzz. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, c'est vrai que la nouvelle box de Numéricable, on va peut-être vous en parler un petit peu plus tard, mais c'était certainement pas aussi bien relayé que l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile. Certainement beaucoup moins perturbateur, on va dire. Passer très rapidement sur les annonces de Free, parce que aujourd'hui, je doute que qui que ce soit qui entend cette émission n'est pas au courant. Mais enfin, on va quand même le faire rapidos. L'annonce de Free qu'on attendait depuis très longtemps, c'était bien sûr les nouveaux forfaits de téléphonie mobile. Ils en ont annoncé deux. Le premier qui était attendu, mais qui était moins cher que ce qu'on attendait, c'était en gros un tout illimité, communication, SMS, MMS bien sûr, connexion internet avec un fair use de 3 gigas, donc c'est comme d'habitude le illimité, pas vraiment illimité, mais enfin, leur limite de l'illimité est quand même beaucoup moins limitée que la limite des illimités des autres.
Des autres, voilà.
Et si vous vous écoutez bien ce que j'ai dit, en fait, c'est tout à fait ça, c'est cohérent. Donc, c'est quand même un excellent forfait. Et il est à 19,90€, ce qui est plus bas que ce qu'on attendait. Et en plus de ça, pour les abonnés Free, ils ont droit à un de ces abonnements à 4€ de réduction, donc 16€ au lieu de 20. Donc c'est vraiment un tarif et un forfait très intéressant. En plus de ça, il y a eu le petit forfait qui était là pour à la fois certainement pour faire un petit peu le coup médiatique et en même temps pour combattre les forfaits trop chers dits forfaits RSA, donc les forfaits petit budget pour les gens qui ne sont pas en moyen de se payer des gros forfaits, qui est un forfait à 60 minutes de communication et 60 SMS ou MMS pour 2€ seulement, ce qui était une annonce évidemment qui a foudroyé tout le monde, et 0€, donc le forfait gratuit pour les abonnés de Free. Jérôme avait en plaisantant prédit le forfait, Jérôme Kainborg avait en plaisantant prédit le forfait gratuit dans Upload, et ben voilà, il avait raison. Donc,
oui, enfin, quand il parlait du forfait gratuit, il parlait un peu du forfait gratuit, mais illimité.
Oui, oui, mais bon, quand même. Oui. Quand même. Alors, première réaction, on va parler de la réaction de la concurrence juste après, mais au moment où vous avez entendu cette annonce, et on va essayer quand même dans cette émission d'être un petit peu analytique et mesuré, on va essayer de pas trop faire dans l'hyperbole et dans le trolling des autres opérateurs, même si ça va être dur, j'avoue.
Vous
allez voir, on va en discuter. Mais vous, vos réactions quand vous avez entendu tout ça, elles étaient... dites-moi, on va commencer avec Cédric qui... Peut-être un petit peu d'informations sur ton background.
En fait, moi j'ai travaillé chez The Phone House. J'ai travaillé en boutique pendant un an et demi et après j'ai travaillé pendant 5 ans et demi au siège social à Suresnes. Et je m'occupais entre autres du site web. Donc je connais un peu le monde de la téléphonie, juste un peu. Pour ne serait-ce qu'avoir entubé des gens en leur vendant les forfaits des trois opérateurs, d'avoir vu d'ailleurs débarquer Virgin Mobile quand j'étais encore en boutique. Enfin, on commençait à en entendre parler et c'était le tout début. Et voir les opérateurs virtuels débarquer, puis ensuite j'ai filé au siège social où j'ai travaillé sur d'autres choses. Quand j'ai entendu l'annonce de Free, ça m'a fait en fait un effet très curieux. J'ai eu vraiment les jambes coupées. Mais au sens premier du terme, c'est-à-dire que je me suis imaginé encore travaillant chez The Phone House et je me disais, oh putain, c'est un peu ça, tu vois. Je me suis dit, là, il se passe quelque chose d'énorme qui va changer la vie de, y compris des gens qui travaillent dans la téléphonie mobile, mais la vie dans ces entreprises-là, que ce soit les distributeurs ou les opérateurs, parce que je parle des distributeurs aussi parce qu'il faut pas les oublier, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait les distributeurs ne distribuent pas Free Mobile, enfin personne ne distribue Free Mobile à part Free quoi.
Ouais.
Donc ça impacte aussi, tu vois par exemple,
ça veut dire que The Phone House par exemple ne peut pas vendre un forfait Free Mobile.
Ah non, non. Et d'ailleurs, bon, j'en reparlerai, mais tout le monde essaie de faire de la récupération autour de Free Mobile, les communiqués de presse vont dans le sens soit de, si c'est un opérateur c'est on déteste Free, et si c'est un distributeur c'est génial ce qu'ils font, et mec, viens chez moi, quoi.
Ouais,
appelle du pied, sinon je vais être dans la merde, dépêche-toi.
Ouais.
Voilà. Donc moi, ça m'a vraiment coupé les jambes, et je me suis dit que... Enfin, je parle du prix, hein, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui fait que Free n'est pas... je l'ai toujours dit, hein, de toute façon, un opérateur, ça reste un opérateur. Et comme tous les opérateurs, même si ces conditions générales de vente tiennent sur une page, elles sont formulées d'une certaine façon, qui fait que certaines clauses sont toujours abusives, mais comme chez les autres, j'ai envie de dire.
Ouais.
Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de révolution. Par contre, c'est sur le tarif que là, par contre, il y a eu un vrai tsunami ou tremblement de terre ou ce que tu veux. Et pour te dire, je ressentais à la fin de la keynote, je ressentais la même excitation que lors de la keynote du premier iPhone, où je m'étais dit, ça y est, là, il y a un tournant en téléphonie mobile, il va se passer quelque chose d'énorme.
Ouais.
Et à l'époque, je comprenais pas que des Nokia ou même Phonehouse ne prennent pas la mesure de ce que c'était.
Ouais.
Ils l'ont compris après, mais presque trop tard. Mais ils l'ont compris après. Et là, en fait, il se passe, c'est un événement du même niveau, en France en tout cas. Enfin, c'est vraiment local, pour le coup, c'est pas mondial. Mais c'est un événement de la même ampleur, voire peut-être même encore plus important en termes économiques, en tout cas.
Ouais.
Donc voilà.
Yann, de ton côté, alors il faut savoir que, bon, évidemment, toi, tu as vécu en France pendant très longtemps. Hein,
pendant 10 ans. Ouais.
Tu peux revenir maintenant, c'est moins cher le téléphone.
Et donc, tu t'es exporté au Canada il y a de ça un an et demi maintenant, 2 ans.
Ouais,
presque,
quelque chose comme ça, ouais, un an et demi. Ouais.
Et alors, ta réaction en mettant dans le contexte de ce que tu payes au Canada, peut-être. Enfin, je te laisse détailler.
Ben écoute, c'est assez simple. Hein. Là, j'ai fini mes valises. Il me reste 2-3 babioles à arranger, mais je rentre à Paris, c'est décidé. Non, mais c'est clair que ça a été une onde de choc. Je m'y attendais vraiment pas. Longtemps, je me suis dit, écoute, Free va rentrer dans la danse. Et c'est tellement tentant. Et je suis sûr qu'ils ont été sollicité par les autres en disant bon écoute c'est bon on n'a pas réussi à te faire à te garder en dehors de notre cercle donc maintenant que tu as rejoint un petit peu le groupe on va se mettre d'accord sur les prix et puis tout le monde sera content tout le monde va en profiter et voilà j'espérais qu'ils ne le fassent pas et en fait voilà ils ont tenu promesse ils ont dit voilà on va diviser les factures par deux et aujourd'hui je paye 90$ au Canada par mois pour ma facture pour mon téléphone pour quasiment rien, j'ai droit à 1 giga de trafic, 2 heures par mois, et puis le week-end illimité, c'est ridicule. Et je donnerais n'importe quoi aujourd'hui pour avoir ne serait-ce qu'un forfait Orange. C'est pour dire à quel point la situation est grave ici. Et, et donc voilà, quand j'ai vu les forfaits à 19 euros, j'ai
au Canada. Au Canada, si je ne m'abuse, il y a encore moins de concurrence qu'en France. Il y a que Rogers qui est vraiment important, et puis les autres.
Il y a Bell et Rogers, mais oui, voilà quoi. Ils se partagent tous les deux la part du lion, et donc c'est très très compliqué d'intégrer parce que le territoire est beaucoup plus grand, donc pour pouvoir tout câbler et couvrir suffisamment de clients pour être rentable, c'est très compliqué.
Ouais.
Donc donc voilà, j'ai explosé de joie quand j'ai vu ça. J'étais super content pour.
Non, j'étais rendu compte que t'habitais plus en France.
Exactement. Exactement.
Ouais, génial. Oh merde.
Et il y a quand même un truc que je me demande, c'est que, alors on va en parler juste après de la réponse des concurrents, mais voilà, je me demande quand même si ça va être, si ces ajustements de prix qui ont été faits par la concurrence seront répercutés aussi sur les DOM-TOM, qui reste encore une énorme vache à lait, et donc on paye encore là-bas, quand même sous des départements français, des factures incroyables, et donc j'espère que ce sera répercuté là-bas. Voilà.
Oui. Ça, c'est encore un autre problème, parce que géographiquement aussi, et pour l'infrastructure, c'est pas les mêmes conditions, donc... Mais oui, effectivement, c'est peut-être une question à poser. Pour ma part... comment dire ? Je vais peut-être mettre quelques bémols avant de donner vraiment mon avis, ma réaction à l'annonce. Il y a plusieurs bémols à mettre. C'est que, d'abord, le forfait de Free est sans téléphone. Donc, pour certaines personnes et dans certaines conditions, c'est pas forcément le choix le plus clair et le plus idéal à 100% de se dire aussi simplement que... c'est pas clair comme de l'eau de roche de se dire c'est chez Free que je dois aller. Parce que si tu veux un téléphone, peut-être qu'il y a un autre forfait qui te convient mieux. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit « Oui, mais arrêtez, il faut pas donner tellement d'importance à Xavier Niel, c'est pas un ange, il est là pour se faire de l'argent aussi, bon, voilà. » Et ça, c'est une évidence tellement évidente qu'elle ne veut rien dire. Je veux dire, il est absolument clair que Free est là pour se faire de l'argent aussi, qu'il y a une part de technique de communication et que c'est de cette manière qu'ils font le buzz et qu'ils font toutes les télés et toutes les radios et tous les journaux de France sans payer un centime de pub. Il y a une compétition commerciale qui est évidente, mais ça n'empêche pas que la situation était ce qu'elle est il y a une semaine et qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et je vais développer ensuite. Et donc, il y a aussi des désavantages à Free. Il y a certaines personnes qui ont pointé du doigt, par exemple, le fait que certains tarifs en roaming, si on appelait dans certains pays ou si on était à l'étranger, étaient moins intéressants qu'avec d'autres opérateurs. Il y a des choses comme sur le forfait à 2 euros, si on est en dépassement, ça revient un petit peu cher si on dépasse de temps et de temps. Bref, si on veut chercher des poux aux offres de Free, on peut les trouver, c'est évident. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a admis que tout ça était vrai, ma réaction, moi, elle a été un petit peu celle de Cédric. C'est que j'ai eu les jambes complètement coupées pour deux raisons. D'une part, le tarif à 19 euros qui était beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait. On pensait que ça serait genre 29 euros sans abonnement ADSL. Et si on avait l'abonnement ADSL, 19 euros. Là, c'était encore plus intéressant que ça. Et d'autre part, pour ce fameux forfait à 2 euros, j'ai fait un hangout sur Google Plus le lendemain et j'ai eu quelques camarades Google Pluseurs qui m'ont rejoint dans ce hangout. Le hangout, c'est les conversations vidéo à une dizaine de personnes et on a beaucoup discuté. Et moi, j'ai eu à un moment cette impression de ce forfait à 2 euros qui est une sorte de militantisme socialo-capitaliste qui est presque un geste social, quoi. Alors évidemment, c'est commercial, c'est de la pub, c'est tout ce que vous voulez. Mais faire baisser, offrir un forfait à 2 euros alors que le forfait le plus proche de celui-ci avant était à 10 euros chez les concurrents et qu'il était moins intéressant, c'est tellement invraisemblable que ça, même si ça n'a pas l'intention d'activisme social, ça en a les conséquences. C'est-à-dire que c'est tellement bon marché, c'est tellement une rupture avec ce qui existait avant, et ça a une telle conséquence sur le quotidien des Français qui n'ont pas énormément d'argent, que ça a forcément une portée sociale. Et ça m'a presque donné... Enfin, le capitalisme et le... Enfin, on part dans la philosophie presque, mais le capitalisme et le socialisme sont toujours deux philosophies qu'on oppose. Là, on a le meilleur du capitalisme, c'est quand ça fonctionne... On a la concurrence qui fonctionne et un résultat qui est un point positif pour les consommateurs. Et c'est ça, finalement, l'idéal du capitalisme qui ne fonctionne pas toujours comme ça, malheureusement.
Moi, le forfait à 2 euros, je ne l'ai pas vu comme ça. Hein. Je l'ai vu, en fait, comme un bras d'honneur aux autres opérateurs.
C'est un petit peu ça, oui.
Et au gouvernement. Parce qu'en fait, il faut se rappeler quand même que Free a eu énormément de mal à obtenir sa licence 3G. Même si on disait oui, c'est vachement bien, le gouvernement se félicitait que Free arrive, que ça allait faire bouger le marché et tout ça. Mais il y avait des proches de Sarkozy qui avaient déclaré, il y a encore un ou deux ans de ça, qui avaient déclaré qu'un quatrième opérateur, finalement, peut-être que ça allait pas changer grand-chose, il y avait déjà les MVNO.
Peut-être que ça va pas changer grand-chose. Et le fait d'attribuer la licence, il y a un geste qui est plus important.
Mais rappelle-toi toute la paperasse qu'ils avaient dû faire.
Ah, mais bien sûr.
Comment ils avaient dû se battre et tout ça. Donc en fait, le forfait à 2 euros, c'est surtout pour leur faire un joli doigt, y compris à l'État et y compris aux concurrents. En fait, c'est leur dire. Le forfait 10 euros chez les autres opérateurs, c'est un truc qui est voulu par l'État pour le RSA. Et Free, en fait, ils font absolument pas dans le social. Là, très franchement, c'est un beau doigt levé. Et même mieux que ça, en fait, il faut savoir qu'en 2001, Free a quitté, en fait, la FFT, donc Fédération Française des Télécoms, il avait déjà quitté quand ils étaient sur la DSL, et ils avaient quand même rejoint la FOM. Et alors, la FOM, donc l'Association Française des Opérateurs Mobiles, il avait rejoint en 2010, et j'ai une vague idée que c'était pour regarder comment ça se passait chez les autres. Et depuis que la FFT et la FOM ont fusionné, Ben, ils l'ont quitté. D'ailleurs, Numéricable aussi est parti. C'est les deux seuls opérateurs qui en font pas partie. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Yann, quand tu disais, les autres opérateurs ont dû leur dire, bon, allez, on s'entend sur les prix et tout ça. Ben, en fait, non, puisqu'ils ne font même pas partie de la Fédération Française des Télécoms, en fait. Donc, même les réunions où ils se rencontrent normalement officiellement tous, où en gros, ils défendent leurs intérêts entre eux, Free n'en fait pas partie. Au même titre, d'ailleurs, que Numéricable. Et donc, franchement, moi, le forfait 2 euros, quand je l'ai vu, Je me suis dit, c'était quand même un choc, quoi. Bah oui, mais là, je me suis dit, ça y est, Niel a sa revanche, en fait, sur tout
ouais, mais je crois que,
sur toute cette bureaucratie qui a fait qu'ils ont eu énormément de mal à obtenir leur licence, tu vois.
C'est évident, mais si le gouvernement, en particulier le gouvernement, on part dans la politique, mais si le gouvernement Sarkozy n'avait pas voulu qu'il y ait cette quatrième licence, ils auraient pu la bloquer complètement. Donc, il y a quand même eu certains éléments, et je pense en particulier au Premier ministre, qui ont poussé pour la quatrième licence, et certains, tous pourris certainement, mais peut-être certains un petit peu moins que d'autres, il y en a qui se rendaient compte de cette oligarchie des trois opérateurs, qui voulaient la briser, et qui ne voyaient pas d'autre solution que de faire entrer un quatrième opérateur, puisqu'il faut le savoir, et il faut le rappeler, les trois opérateurs existants ont déjà été sanctionnés pour entente illicite, donc ils ont été jugés comme s'étant rendus coupables d'une entente illicite criminelle.
Ouais, mais attends, franchement, est-ce que ça a changé après la condamnation ?
Non, mais c'est ça. Mais bien sûr, c'est ça le problème, c'est que étant donné que ça n'a rien changé du tout et qu'il y avait toujours peut-être pas entente illicite avec discussion, encore que c'est possible, mais entente illicite en tout cas dans les frais, parce qu'on regarde ce que fait le voisin et comme tout le monde est content des marges qui se fait, bah personne ne va tirer le premier, personne ne va baisser, donc. Concrètement, les choses ne changent pas. Donc, quand on fait ce constat qu'on a essayé avec la justice et avec les discussions de faire baisser les choses, la seule solution qui reste, c'est de faire entrer un trublion comme Free. Et s'ils avaient voulu soit faire entrer quelqu'un d'autre, soit carrément ne pas faire entrer qui que ce soit, ça aurait été possible, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même, je sais pas qui, je sais pas comment, mais je pense qu'il y a quand même eu une volonté du gouvernement et je me doute parfaitement que la gauche aurait fait la même chose, hein. Je suis pas en train de dire c'est la droite ou la gauche, mais le gouvernement a forcé le cassage de cette situation complètement bloquée par les trois oligarques traditionnels. Et c'était le moyen qu'ils ont eu, c'était de faire rentrer le quatrième opérateur. Dans la chatroom, on dit François Fillon, effectivement, c'était a priori lui qui a un petit peu drivé la chose, mais bon.
Ouais, ouais. Mais tu vois, moi, le forfait 2 euros.
Faut savoir que Fillon est un gros geek aussi. Hein,
ouais, mais ouais. Ouais, il a beaucoup d'iPhone. Mais il faut savoir que voilà, moi, le forfait 2 euros, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Ouais.
C'est ma revanche.
C'est possible.
Tiens, regarde où je te la mets.
Oui, c'est possible. Et effectivement, enfin, je veux dire, moi, quand je dis social, c'est que je vois juste la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut en France avoir pour 30 euros un forfait ADSL. De super qualité. Bon, il y a le problème de YouTube que tout le monde ressort à chaque fois et c'est vrai. Le problème, un forfait ADSL et un forfait mobile qui permet d'avoir un téléphone mobile au moins. Enfin, c'est une offre qui n'existe certainement pas dans beaucoup d'autres pays, quoi. Donc, encore une fois, et là, on en vient à la deuxième partie du sujet, qui est la réaction des concurrents. Je dirais que on en parlait bien sûr de cette arrivée de Free hein, dans la téléphonie mobile depuis un moment. Et ce que j'ai dit moi, en tout cas, je m'en souviens à plusieurs reprises, c'est que à l'époque de l'ADSL, à l'époque au début des années 2000, il y avait de la même manière une sorte d'entente entre tous les opérateurs les fournisseurs d'accès Internet. Et Free est arrivé à jeter même pas un pavé dans la mare, c'était le Titanic dans la mare. Ils ont là aussi fait un tsunami et ils ont transformé complètement le paysage de l'accès à Internet en France. Complètement. Et quand on disait ça, certains disaient « Ah oui, mais pour la téléphonie mobile, machin, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas exactement la même chose. Free, ils font ci, ils font pas ça. » Eh ben, on a eu la preuve, mais incontestable, qu'on était dans la même situation dans la téléphonie mobile. Et même ceux qui en doutaient ont bien été obligés de constater que finalement c'était le cas, parce que tout a été transformé, les tarifs et les abonnements ont été transformés en 2 jours après les annonces de Free. Et peut-être que là encore je vais laisser Cédric détailler un petit peu la chose parce qu'il connaît mieux les forfaits et les opérateurs, mais quand on parle de tsunami, c'est vraiment un cas, une description qui pour le cas est adapté, quoi.
Ah ben, enfin, pour te dire, je pense que là sur l'immeuble, sur la tour SFR à la Défense, l'impact était plus large qu'une pièce de 2 euros, tu vois, pour reprendre Carglass. Donc, moi, j'ai eu des échos en interne chez les opérateurs parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui y travaillent. Et en fait, il y a eu vraiment deux réactions. Il y a eu la réaction panique qui a pris beaucoup d'employés. Qui était ça y est, comment, enfin, je vais perdre mon travail, comment ça va se passer, c'est la fin du monde, enfin voilà quoi. Le truc, c'est que bon, bah, y avait cette réaction là qui a été un peu commune à, on va dire, à tous les, bah, toutes les personnes que j'ai contactées chez les opérateurs et chez tous les opérateurs, y compris des MVNO comme Virgin Mobile où j'ai encore des amis qui y travaillent. J'ai eu des gens de la distribution aussi, de chez mon ancien employeur. Pareil en fait. Alors en fait, certains ont vraiment pris la mesure du truc et ont été pris d'une peur panique. Et ensuite, il y a une autre réaction qui est en gros le déni de réalité. C'est comme ça que je l'ai appelé. Mais qui en fait est plus complexe que juste de dire non, c'est, ça n'est pas vrai, ça n'est pas arrivé.
Ouais.
C'est plus complexe que ça en fait. C'est-à-dire que
c'est en fait se mettre les doigts dans les oreilles et faire
je n'entends pas, il s'est rien passé. non, c'est pas ça. Moi, j'ai vu passer des communications en interne de ces entreprises, et y compris de chez mon ancien employeur. Je devrais peut-être pas le dire. Bon, quoique, si je cite pas la fuite, ça va, il se fera pas licencier.
Ouais.
Même sous la torture, je ne parlerai pas. J'ai vu passer la communication interne qui a été faite pour tous les vendeurs, les gens du siège et tout ça. Et alors là, par contre, je suis tombé de très haut. Parce qu'en fait, on n'est pas dans le déni de réalité, mais on est plutôt sur le... Comment dire ? Sur le... En fait, on va essayer de tout faire pour dénigrer, sans le dire, le nouvel entrant.
Mmh.
C'est ça, en gros, en substance, c'est... Mais on va vous expliquer comment faire pour que les gens aillent chez SFR et Orange, pourquoi Free, c'est nul.
Ouais.
Et en même temps, on fait un communiqué de presse qui dit ben on serait super content de les distribuer.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc
ils peuvent pas vraiment réagir autrement en même temps. On peut se dire un petit peu ça fait mal, mais j'ai un petit peu envie de dire les pauvres, quoi.
Oui,
en tout cas,
en fait,
au moment de l'annonce de Free, avant que les autres ne réagissent, c'est leur monde qui s'écroule un petit peu.
Ah mais complètement. Et en fait, en interne, ne paniquez pas, on a une solution, voilà ce qu'il faut dire. Et en gros, c'est Free, c'est nul, il n'y a pas de réseau, en plus, ils ont vendu du beurre aux Allemands pendant la guerre, enfin, tu vois, genre de truc. C'est... Non, mais tu vois, c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, les arguments sont de ce niveau-là, en fait.
Ouais.
Il y a des choses qui sont complètement fausses, et bon, je trouve ça super moche. Mais d'un autre côté, c'est la réalité. C'est la réalité, quoi. Je veux dire, si un vendeur en téléphonie il connaissait quelque chose, ça se saurait. Non, je déconne. Mais
Mais enfin, tu sais, c'est marrant parce que alors pour résumer un petit peu là aussi, je pense que tout le monde connaîtra les réactions des concurrents. En gros, 2 à 3 jours, les concurrents ont réussi l'exploit invraisemblable de s'aligner à peu près sur les tarifs de Free. On schématise, hein, mais en gros, ils sont alignés sur les tarifs de Free. Ce qui représentait, je donne un exemple, le tarif du forfait équivalent le plus proche de chez Sosh, qui était à 40 euros, est passé tout à coup à 25 euros. Ça fait une baisse de plus de 30%. Donc, du jour au lendemain, Sosh a déclaré au monde, Sosh et tous les autres, hein, ont déclaré au monde que, en fait...
Il dit Orange, hein, pas Sosh.
Oui, bien sûr, pardon. Sosh étant l'offre Internet à petit prix et sans engagement.
C'est l'offre 100% web, entre guillemets, d'Orange, quoi.
D'Orange. Et ils ont dit à tout le monde, ces offres-là qu'on vous vendait il y a 2 jours à ce prix-là, eh ben, on peut tout aussi bien vous les vendre 30% moins cher. Donc, en gros, je suis désolé, mais c'est le cas. On vous la mettait tellement profond qu'on peut encore.
je viens de m'étouffer en lisant un tweet.
Quoi? Vas-y, dis.
Non, c'est Outdoc qui dit révélation de Cédric Bonnet. Free vendait du beurre aux Allemands pendant la guerre. Alors, raccourci.
Mais bon, donc effectivement, les opérateurs déclarent allègrement et sans complexe que ils vous vendaient ces tarifs, enfin ces services 40% plus cher qu'ils ne pouvaient vous les vendre, tout en restant cohérent avec ce que ça leur coûtait, en faisant de la marge.
C'est incroyable.
C'est tellement
mais non,
et
Patrick,
le pire c'est
mais
que
non, Patrick, le pire là t'as du que... service.
Bien sûr. Le pire c'est que ces offres là dont on vous parle, Soch, Carré, machin et BNU et tout ça, ces offres à prix réduit de chez les opérateurs, elles n'existent que depuis quelques mois et elles n'ont été créées que pour contrer l'éventuelle arrivée de Free sur le marché. C'est-à-dire que même ces tarifs-là qu'ils ont réussi à baisser de 30%, c'est des tarifs plus ou moins compressés par rapport à leurs tarifs normaux et traditionnels qui seraient restés là sans aucun problème si Free n'avait pas pointé le bout de son nez.
Et
donc
un opérateur que je ne citerai pas a avoué que en fait bon voilà, les offres qu'ils avaient faites avec leur opérateur enfin leur marque low cost étaient faites vraiment pour contrer l'arrivée de Free, mais ils s'imaginaient pas que Free allait faire un prix aussi bas en fait.
Bah,
ils étaient persuadés
qu'ils
allaient. En fait, en gros, les offres BNU, Soch et Red, c'est ce que les opérateurs imaginaient que Free ferait en fait. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ils étaient un peu loin.
Et oui, ils étaient carrément loin. Et donc, de fait, en fait, et je pense que c'est pour ça qu'on dit vraiment que ça a été un tsunami dans le paysage téléphonique français, c'est que de fait, l'annonce de Free n'a pas eu des conséquences que pour Free, elle a eu aussi des conséquences sur tous les autres, sans exception. Et ils se sont tous alignés. Donc, par cette annonce, Free a eu une influence directe et immédiate sur tous les autres. Donc, vous, si vous êtes même chez Soch ou chez BNU, chez Virgin Mobile, vous avez bénéficié de l'annonce de Free. Ou les carrés, les raids de chez SFR. Vous avez bénéficié de cette annonce de Free et aujourd'hui, concrètement, les forfaits des concurrents sont à peu près aussi intéressants que ceux de Free, à quelques détails
alors
près.
Après, je veux juste tempérer un truc, hein, parce que les médias ont dit ça y est, les opérateurs s'alignent avec son offre BNU, Red, machin, Soch, tout s'aligne,
c'est les mêmes tarifs, hein.
Mais en fait, il faut pas oublier juste un truc. Les gens qui sont encore chez ces opérateurs, j'emploierai pas d'autres adjectifs, pardon, chez ces opérateurs, en fait, peuvent pas basculer, en fait, sur ces nouvelles offres. À part Orange, vous gueulez de chez gueuler, quoi. Enfin, faut se battre pour y arriver.
C'est-à-dire que si vous avez un abonnement Orange, vous pouvez pas passer chez Soch.
Voilà.
Quand ils ont fait ces offres bon marché, ils se sont démerdés pour ménager
on te dit que c'est pas le même opérateur et donc t'as pas le même service. D'ailleurs, quand ils avaient lancé Red, Soch et tout ça, ils avaient dit, oh là, si vous allez en boutique avec BNU, en boutique Bouygues, vous serez pas reçu. C'est un nouvel opérateur. Bon, il est fait par Bouygues, mais c'est un nouvel opérateur. Vous n'avez droit qu'au service client en ligne et tout ça, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc bon. Le truc voilà qu'il faut vraiment noter, c'est que les abonnés SFR peuvent pas passer sur Red en claquant des doigts et ce genre de choses, quoi. Ou alors il faut vraiment gueuler. Alors chez Orange, je sais que c'est possible, chez les autres a priori ça l'est pas, mais du coup je trouve que c'est vraiment un peu du super foutage de gueule, quoi, en fait. C'est-à-dire que je suis abonné par exemple, moi j'étais abonné Orange puisque j'ai fait ma demande de portabilité. J'avais un forfait jet avec du tout illimité. Et encore, j'avais même pas le jet international parce qu'il coûtait beaucoup trop cher, donc j'ai même pas les appels internationaux dedans, et je payais 99€ par mois.
Et là, tu passes à...
Et là, je passe à 19,99€.
Pour le même service. Alors, sachant que ça fait une semaine que l'annonce a été faite, à peu près. La plupart des gens n'ont toujours pas reçu leur carte SIM. Il y a des problèmes d'activation. Le site était complètement... le site de Free était complètement surchargé. Il est évident que ça va prendre une, deux, trois semaines pour se stabiliser. Hein. Ça, c'est clair. Certains seront peut-être intéressés par le fait de rester chez les opérateurs chez qui ils sont. S'ils sont très bien là-bas, ben pourquoi pas. Personnellement, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les autres opérateurs, les opérateurs historiques, et en particulier Soch, Red et BNU, sont à peu près aussi intéressants que Free. Il y a des choses comme, par exemple...
Oh, maintenant, BNU est identique à celui de Free. Hein.
Pile. C'est-à-dire que BNU et Virgin Mobile se sont alignés pile sur
pile,
Free. Donc voilà. Et les autres ont des trucs plus ou moins... Enfin, il y a quelques petites différences, mais en gros, c'est la même chose. Moi, personnellement, je me dis, dès que mon forfait SFR se termine, je vais aller chez Free, non seulement parce que je pense que bah, j'ai une certaine sympathie pour Free, mais, et puis le forfait est intéressant, mais aussi simplement parce que ils m'ont tellement, enfin, ils nous ont collectivement tellement.
Tu te sens cocu, Patrick.
Voilà, non, mais c'est ça. Qu'on se dit, j'ai plus envie de leur donner mon argent, quoi. Je vais aller chez Free parce que ils n'avaient qu'à le faire avant. Et maintenant, même si on me donne le choix entre Soch et Free au même prix, ou même Soch un petit peu moins cher, à la limite, je m'en fous. Je vais aller chez Free parce que je fais le choix de voter avec mon porte-monnaie. C'est cette expression qui est chère aux anglophones et aux Américains. Je vote avec mon porte-monnaie. Je donne mon argent à celui qui me prend le moins pour un con. Donc, ouais. Oui, vas-y.
Non, non.
Et Yann, t'as été bien silencieux. Tu te morfonds dans ton Canada.
Je suis à mon quatrième Kleenex là.
D'accord.
Non, mais c'est vrai que enfin je vais pas faire 10 000 lignes, mais j'ai été assez comment dirais-je, enfin c'est exactement ce que tu disais, quoi. Le fait que tout le monde s'aligne sur le prix de Free, c'est l'aveu direct, écoutez, oui, on est désolé, on vous a entubé pendant des années, et puis bon, ben là, on va s'aligner, quoi, mais bon, sans rancune, hein. Donc, ouais. C'est vraiment un goût amer qui me reste dans la gorge. Ouais. Et puis aussi, cette opération qu'ils ont fait, où ils ont fermé toutes leurs pages Facebook pour ne pas se les faire pourrir suite à la...
Je vais te modérer un peu parce que celle d'Orange n'était pas ouverte, en fait. Elle n'a jamais été ouverte, donc c'est pas.
Mais
c'était pas lié à ça, quoi, en fait.
D'accord. Ok. Mais voilà, quoi. Enfin, je trouve vraiment tout ça très petit et vraiment dégoûtant, quoi. Et du coup, je te rejoins tout à fait sur le fait de voter finalement avec ton porte-monnaie. Et même si on te propose quelque chose d'idéal, ne serait-ce que pour par militantisme, prouver ton mécontentement en passant chez Free, c'est vraiment une chose à faire. Il y a juste un bémol, un dernier truc que je voulais rajouter. Je suis pas certain, mais je crois avoir lu que les offres de Free étaient limitées. C'est-à-dire qu'on a ces fameux forfaits à 19,99 €, mais pour les 5 millions, les 5 premiers millions.
Oui, alors en fait, c'est les 3 premiers millions, sachant que Xavier Niel s'en est expliqué ensuite. C'est d'une part pour dire aux gens, venez tout de suite, parce qu'il n'y en a que 3 millions, entre guillemets. A priori, les 3 millions, ça va leur faire toute l'année 2012, donc ça va. Mm-hmm. Et ensuite, il dit, c'est pour garantir sur les 3 premiers millions. Et ensuite, on verra, mais a priori, si on a bien calculé notre coût, ça restera à ce tarif-là. Il dit, on se donne la liberté de remonter un peu ou de redescendre un peu pour les suivants. À mon avis, ça restera à ce prix-là parce que, c'est pas un imbécile, il a bien calculé son truc, quoi.
Ok, écoute, content pour vous.
Deux choses. Nous aussi, on est content pour nous.
Un dernier deux truc, choses, moi, quand même, que j'aimerais ajouter.
Vas-y. Moi, j'avais deux choses à rajouter, mais vas-y.
Bon, moi, il y a un truc qu'il faut souligner quand même, c'est que Free a envie de démocratiser une chose qui, pour moi, est presque la chose la plus importante, en tout cas pour toute l'économie de la distribution, c'est de séparer le service du mobile.
Ouais, exactement.
Et alors, il y a des pays dans lesquels c'est déjà le cas. L'Angleterre a été très longtemps comme ça, mais je sais qu'il y a eu des gros changements, puisque maintenant, ils offrent des téléphones avec des télés quand tu prends un abonnement chez eux. Donc pour te dire à quel point ils doivent faire de la marge, mais pour moi en fait c'est ça qui est vraiment le vrai tournant de cette offre là, c'est qu'en fait dans les 19,99 € je ne paye que mon service, mon téléphone en fait je l'achète où je veux. Ça va avoir deux conséquences. La première c'est que effectivement les téléphones sont chers et ça va peut-être faire prendre conscience aux gens. Oui. Qu'un téléphone portable, ça ne vaut pas 1 €. Attends, vous plaisantez, mais quand je travaillais en boutique et qu'un client avait acheté son téléphone 1 €, quand il le faisait tomber, qu'il cassait ou il perdait, il était toujours engagé, donc il payait toujours son abonnement, mais il venait me voir en me demandant s'il pouvait avoir un nouveau téléphone à 1 €. Tenez, j'ai 1 €. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais voilà, le truc, si tu veux, c'est que ça a toujours été, ça a été toujours ça dans la tête des gens, c'est que finalement,
non mais tout à fait.
Ce qui fait le prix du mobile, c'est finalement le service et l'opérateur qui y est attaché. C'est pour ça que vous payez cher tous les mois. Un truc qui est intéressant avec cette méthode de séparation, c'est que demain Orange pourra proposer toujours son mobile à 1 €, Mais il va peut-être y avoir une nouveauté. C'est que je suis engagé, par exemple, 24 mois chez Orange. Au bout de 24 mois, alors que mon téléphone, je l'ai payé, puisque je suis engagé, j'étais engagé 24 mois, donc je l'ai payé. Le 25e mois, en fait, je ne paye pas que le service. Je continue à payer finalement le crédit sur mon mobile. Et si je reste pendant 10 ans chez eux, sans bouger, ben en fait, je paye toujours le mobile tous les mois.
Ouais. Alors que tu as déjà fini de le rembourser.
Depuis,
quoi.
Ben voilà.
Et c'est pour ça que moi, je changeais d'abonnement tous les ans, quoi.
Ouais, exactement, parce que toi, en fait, tu prenais un crédit sur 12 mois, quoi.
Exactement.
Voilà, mais tu re-signais pour un nouveau crédit tous les 12 mois, mais t'avais
voilà,
un mobile,
c'est
quoi.
Ça. Mais j'avais un mobile gratuit à chaque fois.
Voilà, je prends l'exemple de la grande majorité des gens qui changent de téléphone.
Non, qui ne savaient pas, bien sûr. Ouais.
Tous les 2 ou 3 ans, tu vois, genre ma mère, elle a son téléphone depuis 4 ans au moins, tu vois.
Et elle continue à payer le tarif
comme
si elle en avait acheté un nouveau.
Elle continue à payer le tarif plein pot comme si elle était toujours engagée, qu'elle venait de changer de téléphone, tu vois. Et c'est ça la vraie nouveauté, c'est-à-dire que, à la limite, si pour aller jusqu'au bout, les opérateurs devraient faire baisser le prix de l'abonnement une fois que le mobile est remboursé, que ce soit clair en fait. Aujourd'hui, ça l'était pas. Donc
clairement, c'est avec ça d'ailleurs que Xavier Niel, qui a fait une présentation très Steve Jobsienne et assez réussie d'ailleurs, a dit en ouvrant sa présentation, il a dit la première chose qu'on va faire et qui est extrêmement importante, c'est qu'on va séparer le prix du mobile du prix de l'abonnement. Et je pense qu'effectivement, en quelques mois, et à part pour certaines personnes qui se feront un petit peu embobiner par les vendeurs de la boutique Orange, et ça sera bien malheureux pour eux, mais ils existeront toujours, hein, parce qu'il faut savoir que comme pour la DSL, pour lesquels les autres, Orange et Neuf et tous les autres n'ont pas disparu quand Free est arrivé, ils sont simplement un petit peu transformés, mais ils existent toujours, bien sûr. Et bien de la même manière, les opérateurs qui existaient avant vont continuer à exister, mais une des conséquences, ça va être que les gens, une énorme partie de la population n'achètera plus son mobile, achètera son mobile en séparé de son abonnement. Ça, c'est certain. Tout le monde a commencé à faire ça. Et quand on a autant de clarté chez l'un et maintenant chez les autres, c'est-à-dire chez Soch, Red, BNU, tout ça, on comprend exactement ce qu'on paye et on comprend qu'il faut payer son téléphone 3, 4, 5, 600 euros. On peut le prendre quand même à crédit en parallèle de son abonnement, mais les choses sont tellement plus claires que le fameux couscous-boulette qu'évoquait Xavier Niel et qu'évoque aujourd'hui Ref2615 dans la chatroom ne peut plus vraiment exister. On sait que le téléphone coûte cher, on sait combien coûte l'abonnement, et les choses sont définitivement séparées dans l'esprit des gens, quoi.
Et ça permet une chose aussi, c'est que si ton mobile vient à disparaître ou autre, le service n'étant pas engageant en lui-même, parce qu'il n'y a aucune raison finalement de signer un contrat de 2 ans pour un service. À la limite, tu peux, à part une assurance, tu vois, une assurance auto ou autre, bon, c'est des cas très particuliers, mais même quand tu as un j'allais citer l'EDF, mais c'est pas un bon exemple, puisqu'il y a un peu aussi une situation de monopole, ou presque. Donc, mais bon, pour un contrat de service, il n'y a aucune raison que tu sois engagé 24 mois, quoi. Enfin,
bien sûr. La seule raison pour laquelle
c'était le mobile.
C'était le mobile.
Et c'est ça qui est honteux. Et l'engagement, en tout cas, sur le service ne devrait pas avoir lieu. Moi, combien de fois j'ai vu des pères de famille venir en boutique en me disant ma fille a pété son téléphone ou mon fils a perdu son téléphone. Et moi, j'étais obligé de lui expliquer que le forfait à 15 euros qu'il avait souscrit pendant 12 mois allait quand même continuer à être prélevé tous les mois. Ouais. Et que s'il voulait un nouveau téléphone, fallait payer au minimum 100 euros, quoi. Et s'il voulait le même téléphone que celui qu'ils avaient avec abonnement pas cher, il fallait payer 250 ou 300 euros. Et là, c'était un peu les boules, tu vois. Il pouvait pas couper sa ligne, parce qu'à la limite, le fiston pète son téléphone, basta, il en a plus, tu coupes la ligne, tu peux continuer pas à payer le service. Mais là, t'étais doublement puni, quoi, en fait.
Ouais. Et moi, donc, ce que ça va changer pour moi, c'est que désormais, je vais devoir me poser la question chaque année de est-ce que j'achète un nouveau téléphone ou pas.
Regarde les économies que tu réalises par mois, tu les mets de côté et tu.
Mais c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que
le téléphone, tu le payes, voilà.
C'est ce que je pourrais faire, mais maintenant, j'aurai le choix de ne pas dépenser cet argent, tu vois.
Oui.
Donc.
Oui, jusqu'à présent, t'avais pas le choix, parce qu'à chaque fois que tu te seras engagé, il fallait bien.
C'est ça.
Voilà. Un dernier truc aussi, le deuxième élément important, c'est que le marché de l'occasion risque enfin de reprendre.
D'exploser.
Parce qu'en fait, faut voir un truc, c'est que le marché de l'occasion mobile se portait pas super bien. La preuve, c'est que la plupart du temps, on envoyait nos téléphones à l'étranger pour le recyclage. Là, aujourd'hui, si je peux donner un conseil aux gens qui veulent lancer un nouveau business, lancez-vous dans un site de vente en ligne d'occasion de téléphones portables. Je pense que ça devrait exploser
dans les mois qui viennent. Dernière chose que j'aimerais évoquer sur ce long... Pardon, sur ce long sujet Free Mobile, c'est peut-être une analyse un petit peu sociologique des raisons de la réaction aussi vive à cette annonce, parce que oui, c'est intéressant, c'est le téléphone mobile, ça touche tout le monde et tout, mais franchement, je pensais pas que ça engendre un tel engouement dans toute... Vraiment, on peut le dire, dans toute la France, quoi. Moi, je suis allé,
dans la rue, tout le monde parle de ça, quoi.
Non, mais c'est ça. Moi, comme je disais, je le tweetais la dernière fois. Je suis allé au Subway le jour de l'annonce de la conférence de Free. Je suis allé au Subway. Je rentre dans le Subway. Le vendeur et un client, de quoi ils parlaient? De Free, quoi. Mais j'ai jamais vu personne parler du nouveau téléphone d'Apple qui fait pourtant généralement beaucoup de bruit ou de ce genre de truc. Ça a fait, comme on disait, toutes les télés, toutes les radios, tous les sites, partout. On a vu Free absolument partout. Je pense qu'il y a deux facteurs. D'une part, évidemment, ça touche tout le monde. Degerville dit, même ma mère en parle, c'est dire, ma mère m'a appelé pour me dire, ah, t'as vu Free, c'est super, c'est vachement bien. Le lendemain, mon père m'appelle pour me dire, ah, il y a un type dans une boutique de téléphone qui me dit que les forfaits Free, c'est limité à 120 appels par mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vrai ou pas? Genre, comme tu disais, pour essayer de dire, voilà, ils ont vendu du beurre aux Allemands. Tu ne peux passer que 120 coups de fil par mois. Bon, bref, peu importe. C'est vraiment, mais c'est du n'importe
quoi. Mais c'est ça, c'est que des trucs comme ça.
Donc, bref, ça a affecté toute la population, tout le monde en a parlé, parce que le mobile, ça parle à tout le monde. Et d'autre part, je pense que c'est la seule industrie à laquelle je peux penser en France, le seul domaine où il était aussi clair à tout le monde et aussi vrai que... les tarifs étaient trop élevés. Et là, je deviens un petit peu poli.
Non, il y a l'essence.
Étaient trop
aussi.
Élevés. L'essence, c'est différent. C'est une question de taxation. Je veux dire, là, la seule raison, c'est que les marges étaient tellement énormes et les actionnaires recevaient tellement de dividendes que le service ne semblait pas en adéquation avec le prix qu'on payait pour. Je veux dire, il y a plein de gens qui disent, par exemple, les prix ont beaucoup augmenté depuis le passage à l'euro. Et parfois, c'est une perception qui est un petit peu exagérée, un petit peu justifiée. On pense par exemple au pain pour lequel les matières premières elles-mêmes, le prix des matières premières a beaucoup augmenté. Et donc, le tarif du pain est forcément plus élevé que dans les années 2000, et enfin qu'au début des années 2000. Et c'est une perception, mais qui trouve ses justifications. Là, j'arrive pas à trouver une autre industrie où on vous vendait un truc qui ne coûte rien à produire, un SMS, qui coûte presque rien, s'il faut répercuter le coût d'entretien de l'infrastructure, mais qui coûte presque rien à produire, qu'on vous le vendait aussi cher. Et pareil pour les appels, et pareil pour les forfaits donnés, etc.
Mais pour te
et
dire,
je
un
pense
SMS...
que cette sensation était partagée par tout le monde, et il y a eu une sorte de libération quand on s'est rendu compte que c'était fini, quoi. Vas-y, Cédric, pardon.
Pour te dire, un SMS, en fait, c'est impossible à définir.
Oui.
Le coût d'un SMS est impossible à définir. C'est-à-dire que même 0,01 centime, en fait, c'est toujours beaucoup trop élevé pour définir le coût d'un SMS, tellement c'est rien, en fait. Et donc, en gros, quand Free te vend un SMS 1 centime hors forfait, par exemple, ben en fait c'est 1 centime de marge, quoi, tu vois, pour te dire, enfin ouais. Pour te faire l'équivalent du truc, quoi. Mais exactement. Tu as raison, hein, sur les histoires de marge et tout ça. En fait, jusqu'à présent, je vais raconter mon histoire perso, mais quand je travaillais encore chez The Phone House en boutique, ils avaient tellement d'argent, les opérateurs, tellement d'argent, que ils faisaient absolument tout pour conserver leur part de marché. On m'a même offert un voyage à New York pendant 3 jours avec limousine, chauffeur, hôtel et tout ça. Non, mais c'est pas une blague, hein. J'ai même des photos, je te les enverrai, mais pour te dire à quel point il y avait de l'argent et que tout, enfin, ils ont, enfin, ils en avaient même tellement qu'ils se sont, enfin, qu'ils l'ont jeté, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est, ils en avaient pour verser des dividendes à ne plus savoir qu'en faire à leurs actionnaires, mais en plus, enfin, même la distribution, ils avaient des largesses que tu n'imagines même pas, quoi. Et là, en fait, ça va remettre tout le monde sur, enfin, si tu veux, ça va éviter. En plus, il y a tout un système presque de corruption. C'est pas ça, mais presque, qui existe dans ce milieu-là, en particulier chez les distributeurs, pour maintenir les parts de marché. Pour, tu vois, je vais te donner un des secrets que je devrais pas dire, mais je vais le faire quand même. Tant pis si demain j'ai un procès, mais un opérateur avec un carré rouge, tu vois, je cite pas son nom, mais voilà, qui avait fait signer un contrat à un distributeur indépendant, en français son nom, ça serait la maison du téléphone. Et en gros, l'idée, c'était, tu dois pas faire plus de 80%, tu dois faire 80% d'abonnement et 20% seulement de renouvellement avec les points. Rien que ça, en fait, c'est totalement illégal. En fait, en gros, c'est les renouvellements, tous les, tu vas me chercher des nouveaux clients et tu me les envoies chez moi, quoi, en fait. En gros, c'est ça. Oui. Et tout ça, en fait, c'était pour maintenir en fait le marché, maintenir la distribution, et puis en plus, bon, comme dans un peu dans tout, il y a des histoires de lobbying et de cadeaux et tout ça, mais ils avaient tellement d'argent qu'en fait, ils pouvaient absolument tout se permettre. Mmh. Là aujourd'hui, c'est tout un système qui s'effondre en fait. Ouais. Au-delà de ça, je dis pas que Free va enlever tout ça, tout ce système là, mais c'est, enfin, moi ça m'a dégoûté, et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti de chez la maison du téléphone, c'est qu'en fait mes idéaux n'étaient pas en adéquation avec ceux du on va dire du milieu dans lequel je travaillais.
Ouais.
Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti de chez eux, c'est que mon éthique ne supportait plus de voir tout ce qui se passait en fait. Et, bah écoute, et je parle des opérateurs, mais c'est valable aussi chez les constructeurs. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont fait la même chose, quoi. Donc voilà.
Tu vas être content parce que Jérôme disait tout à l'heure que No Watch va lancer le No Forfait, et dans le No Forfait, voilà, c'est No Watch qui vous paye pour prendre le forfait.
Très bien.
Donc voilà, c'est bien parti. Bon, moi je conclurai en disant que encore après l'annonce de Free, il y a des gens qui défendaient les opérateurs et qui disaient oui, bon voilà, Free c'est bien, mais il y a quand même ça qui va pas et ça qui est bien chez les autres, etc. Je pense qu'il est clair aujourd'hui pour tout le monde que, encore une fois, cette Free a fait dans le, et là c'est évident, c'est terminé, la face du téléphone mobile en France, de l'industrie du téléphone mobile en France, a changé. Et il y aura, à partir d'aujourd'hui, on pourra dire qu'il y a eu un avant et un après Free dans le téléphone mobile. Comme là, il y a eu un avant et un après Free.
Il y a un après 10 janvier 2012. Hein.
Bah, c'est ça, exactement.
Comme il y a eu un avant et un après iPhone aussi en téléphonie, je parle chez les constructeurs.
Bien sûr.
Bah là, on est sur le service, il y a eu, très franchement, en France en tout cas, le même changement. C'est un changement majeur. Il y a un vrai changement
qui est comparable au changement qu'on a eu dans la DSL quand Free a annoncé ses forfaits.
Mais si tu veux, tu vois, quand je te raconte toutes ces histoires là de coulisses, ça a des impacts que vous n'imaginez même pas, qui touchent pas évidemment le commun des mortels, mais qui touchent en fait tous les gens qui travaillent dans cette industrie.
Ouais.
Enfin, c'est, je sais pas comment expliquer ça, mais il va y avoir d'énormes changements. Et il y a des gens qui avaient fait des plans sur 5 ans ou des sociétés qui ont été rachetées, qui vont avoir du mal, quoi. Enfin, bon. C'est la fin d'un monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Non, mais c'est vrai. 2012, c'est la fin d'un monde.
Bon. Bah écoutez, je vous propose qu'on conclue cette longue partie Free qui le valait bien, je pense, est très intéressante. En tout cas, j'ai pensé, j'espère que ça vous aura plu aussi. Et ma vraie conclusion, c'est, je pense que je vais aller chez Free, même si les autres essayent de me corrompre, j'irai chez Free dès que je pourrai. Mais je laisse quand même passer les quelques premiers mois, histoire qu'ils fassent leur ménage et que le réseau fonctionne bien. Et donc on va enchaîner sur un autre sujet qui est un petit peu l'inverse de ce qui s'est passé pour Free, c'est-à-dire que on attendait Free, en fait on en avait tellement parlé qu'on se disait bon bah on sait ce qu'ils vont annoncer, donc on va être un petit peu tiède, ça va être bien, mais voilà.
Et ben là, en fait, on se disait, ouais, le CES, ça va être trop trop fort, ça va être super top, moumoute et tout. Et ben en fait, je sais pas pour vous, mais moi, le CES, il est retombé comme un ignoble soufflet raté. Et je n'ai quasiment rien vu de vraiment excitant au CES. Et je crois que c'est la première fois depuis bien longtemps que je vois rien d'excitant. Je vais résumer. Alors, je suis sûr que Cédric, tu vas trouver des trucs genre des robots qui dansent ou ce genre de conneries. Mais pour moi, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'était bon, il y a des annonces pré-CES qui disent que la Google TV sera intégrée à plein de télévisions dans l'année qui vient. Ok, ça c'est sympa, mais c'est pas encore là. Il y avait les télévisions OLED qui ont l'air super bien, super fines et d'une qualité mémorable, qui arriveront là encore dans quelques temps, dans quelques mois, et qui vont être hors de prix.
Oh,
Et puis il y a quelques petits trucs, genre le, je sais plus comment il s'appelait, le Replicator, les imprimantes 3D dont on a déjà beaucoup parlé ici, qui commencent un petit peu à arriver au niveau où étaient les imprimantes laser il y a, allez, 25 ans. Donc bon, au niveau des tarifs et au niveau des performances. Donc ça arrive, mais là c'est pas non plus encore vraiment là. Et puis à part tout ça, bon, bah pas grand chose quoi, pas grand chose. Déception, c'est demi-molle.
Oh.
Quoi.
Oh. Non, c'est vrai qu'il y avait pas, c'est vrai qu'il y avait pas grand chose.
Yann, vas-y, défends-moi et après Cédric va être.
Je vous trouve.
Non, il y a. Il y avait des choses intéressantes, mais bon, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient, qui espéraient en tout cas une annonce d'Apple sur une Apple TV ou
un petit peu plus. Personne s'attendait ça à ce moment.
Bah, je sais pas, dans Buzz Out Loud, j'entendais beaucoup de rumeurs de ce genre-là, et on attendait aussi Microsoft qui aurait pu annoncer son Xbox 720. Puisque c'était leur dernière conférence, en fait, c'est la dernière fois qu'ils feront une apparition au CES. Ben finalement, non, ils ont juste parlé de Kinect qui va arriver sur Windows 7. Donc, effectivement, il n'y a pas eu grand chose. Bon, la télévision, je crois que c'est elle qui a eu qui a retenu le plus d'attention, la télévision de Samsung, non, de LG, je crois, qui fait 4 mm d'épaisseur.
C'est ça.
Donc voilà, ça doit être, voilà, qui.
Moi, c'est pas celle que j'ai retenue, tu vois.
Ben, je crois qu'il y a Samsung aussi qui en fait une du même genre. Et puis, bien sûr, le Nokia Lumia 900, ouais, voilà, qui n'arrête pas de me faire de l'œil. Mais j'ai pas encore compris comment je vais faire la pilule passée avec ma femme. Donc voilà, j'y travaille encore.
Mais tu as le temps parce qu'il n'arrive pas de suite.
Ouais, en mars, je crois. Donc,
ouais, mais en mars, chez AT&T.
Ben c'est,
Chez nous plus tard en fait, ils ont au moins 3 mois d'exclusivité.
D'accord. Bon ben du coup c'était naze.
Tu vois qu'à l'été.
Tu lui casses son trip là, Cédric. Bon alors toi, t'as trouvé quoi de super intéressant alors ?
Alors en fait, vous êtes déçu pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu l'annonce. Le truc qui fait que vous dites waouh c'est génial. Ils ont annoncé, je sais pas moi, un nouveau Google Phone qui repeint le plafond. Enfin. non mais c'est ça en fait. À chaque fois au CES, on s'attend à avoir l'annonce, genre la méga tablette qui déchire sa race, ou tu vois, enfin...
Bah, pas forcément,
l'année dernière, c'était une CES qui était quand même vachement sympa, il n'y a pas eu d'annonce.
Il y avait plein de tablettes Google Android, plein de tablettes, bon, qui finalement se sont cassées la gueule, mais il y avait plein de petits trucs, tu vois, qui étaient excitants.
Il y avait des services aussi, il y avait pas mal de trucs.
Bon, alors là, dis-nous Cédric, fais-nous voir la lumière, parle-nous, donne-nous la bonne parole, qu'est-ce qui t'a plu ?
Non, mais pour moi, le CES 2012, c'est un vrai CES de transition. C'est-à-dire que c'est comme pour tout en techno, il y a des phases où on a, enfin franchement, on innove plus beaucoup quoi. Vous m'entendez toujours ?
Oui,
tout à fait. C'est juste qu'on rêve toujours pas.
Non, mais en fait, j'ai une page qui s'est rafraîchie sur mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi et ça m'a fait peur. D'accord. J'ai cru que j'avais été déconnecté. Enfin, c'est une vraie année de transition, c'est-à-dire que les constructeurs savent qu'on va rentrer dans une année de crise et que du coup. C'est pas la bonne année pour lancer des nouveaux produits parce qu'ils se vendront pas, les gens n'auront pas d'argent, enfin voilà. Par contre, c'est la bonne année pour montrer ce qui va arriver en fait, finalement l'année, fin de l'année, mais surtout début de l'année prochaine. Oui. Ils espèrent une sortie de crise d'ici un an, tu vois. Bon, ça m'étonnerait, mais bref.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Et du coup, en fait, toutes les technos qu'ils ont montrées, c'est sûr, c'est des choses qu'on n'aura pas à court terme. Les écrans OLED, faut pas rêver, quoi. Ça sera fin de l'année, quoi. Ou même Sony.
Et même quand ça sortira fin de l'année, ça sera pas abordable du tout, quoi.
Même Sony qui lance sa télé Crystal LED, puisque eux sont pas sur l'OLED, qui est une techno qui est assez proche finalement, enfin pas la techno mais surtout le rendu est assez proche, avec des couleurs un peu moins criardes, eux ils ont carrément montré une télé qui est un prototype, c'est-à-dire que la caisse autour c'est absolument pas le truc final, tu vois. Pour te dire bon, à quel
point... Ok, d'accord, c'est très bien ça, mais alors même sur le futur, qu'est-ce qui t'a...
Moi, ce qui m'a plu, alors il y a une télé Samsung de la série 8, la ES8000, qui elle en fait a un design qui est hallucinant et elle intègre en fait la reconnaissance vocale, une espèce de Kinect-like où tu balades ta main pour naviguer dans les menus avec toutes les fonctions Smart TV, de la VOD et tout ça. La télé est ultra impressionnante en fait. Et pour moi, c'est un vrai changement. C'est une télé en plus avec processeur double cœur. Enfin, tu vois, on a des media centers qui sont vraiment maintenant intégrés dans les télés. T'as quasiment plus besoin d'avoir un boîtier sous ta télé pour consommer de la télé. Il y avait un autre truc génial et à côté, enfin, beaucoup de gens sont passés à côté, mais Ubuntu TV qui a été annoncé aussi au CES. Je sais pas si vous avez vu la démo, si vous l'avez pas vu, cherchez-la. Parce que c'est assez impressionnant de voir.
Ça fait quoi alors? Dis-nous un petit peu.
En fait, c'est un vrai media center
sous Linux
et qui est fait pour fonctionner en fait directement dans la télé. Sans utiliser de box ou quoi que ce soit, tu vois. Genre, si t'as une télé relativement moderne, avec un certain type de processeur et tout ça, tu peux déjà l'installer dessus, tu fais sauter le firmware de ta télé. Mais surtout, en fait, l'idée, c'est que c'est gratuit, donc du coup, n'importe quel constructeur de télé lambda pourra prendre ce Ubuntu TV et le mettre dans sa télé. Et je trouve que l'approche qu'ils ont eue de la télé, puisqu'elle gère même la télé au sens télé-télé, quoi, télé direct, est capable de gérer des enregistrements directement sur une clé USB que tu branches sur ta télé, ce genre de trucs. Je trouve que ce CES-là a été hyper innovant de ce côté-là. Quand on voit d'ailleurs la nouvelle
Google TV, pour nous montrer les tendances pour les années à venir.
Et pour moi, ça me rassure parce que je me dis peut-être que en lançant un podcast sur les Media Center, j'ai fait le bon choix, tu vois. Mais
oui, enfin, on les attend toujours les nouveaux épisodes. Hein,
il arrive. Mais tu vois, voilà, c'est si tu veux, en fait, c'est montrer que la télé sert à aussi autre chose que de regarder de la télé, et c'est une vraie tendance de fond de ce CES, c'est de voir qu'on peut faire plus de choses. Et quand on voit les télés avec Google TV intégrées, qui ont fait beaucoup d'efforts en termes d'interface, faut dire ce qui est, ça ressemble beaucoup à la Xbox.
Il fallait, oui.
Ça ressemble beaucoup au dernier dashboard de la Xbox d'ailleurs. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et quand on voit que OnLive a annoncé qu'il serait disponible sur les Google TV, c'est une appli qu'on installe finalement, et que du coup on pourrait presque, si on s'abonne au service OnLive directement sur sa télé, on peut se passer d'avoir une console de jeu, enfin, pour ceux qui jouent rarement, ou tu vois.
Yann, il va te dire des trucs sur OnLive, il y croyait
non,
pas du tout.
Je suis assez d'accord avec lui. Le modèle économique de je paye 9€ par mois, puis je paye mon jeu 40€ pour l'avoir.
C'est pas sûr ça qu'il disait qu'il ne l'avait pas.
C'est plus sur la techno.
Ouais, sur la techno, il disait, jamais de la vie, ça marchera jamais pour rien, c'est de la merde. C'est de la merde.
Écoute, le seul truc, c'est que pour les joueurs occasionnels, je parle pas des gens qui jouent tout le temps, qui veulent pas se payer de console, ça peut être un service assez sympa, quoi.
Repartons pas sur OnLive, mais
voilà, mais bon, bref, en tout cas, c'est pour montrer que la télé, c'est plus simplement un objet passif qui affiche des images, quoi. Ça peut être autre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa. Et puis aussi l'autre tendance que vous avez tendance à balayer d'un revers de main, c'est quand même les ultrabooks. Je sais pas si vous avez vu les machines qui arrivent. Alors vous allez me dire, ouais, c'est déjà vu avec le MacBook Air, machin et truc. Ok, mais il n'y a pas que le MacBook Air dans la vie. Et ceux qui veulent du Windows, ils vont pas acheter un MacBook Air pour installer.
Non, mais si tu veux, là encore, c'est des trucs qui sont très bien. C'est très sympa, mais
il n'y a pas de wow factor,
tu vois.
Le Acer S5 qui fait 15 mm d'épaisseur, quoi. Enfin, c'est à la partie la plus large.
Non, enfin, bien sûr, mais
hyper impressionnant. Enfin,
si, c'est très bien. Écoute, c'est un bon portable, mais
NFC qui a débarqué dans le HP Envy 14 pouces là, et compagnie. Enfin, tu vois, ça bouge.
Je sais pas. Moi, ça m'a pas fait.
Et la keynote de Microsoft,
quoi.
Elle était pas aussi excitante que ce à quoi on pouvait s'attendre pour une dernière keynote.
Avec leur chorale de tweets là, franchement.
C'est
hyper tue l'amour, quoi.
Oui, enfin, bon, ok, pas, tu... mais moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, alors évidemment, ils ont annoncé Kinect pour PC, et qui d'ailleurs est plutôt optimisé pour un usage sur Windows 8, hein, parce que Windows 7 avec Kinect, voilà quoi. Mais ce que moi j'ai trouvé intéressant dans leur keynote,
dispo le 1er février d'ailleurs, hein, Kinect,
ouais,
pour PC.
$249 en euros, ça doit être plutôt par là. Le seul truc que moi j'ai apprécié, mais finalement on le savait déjà, c'est de voir que la Xbox allait devenir plus qu'une console, et quand on voit tous les services associés, y compris la télé live et tous les trucs qui arrivent, ben je trouve ça, d'accord, plutôt pas mal, quoi, en fait, tu vois, pour ceux qui auront pas $8000 à mettre dans la télé OLED de chez LG qui intégrera les services de VOD et tout ça, et qui possède une Xbox, ben j'ai trouvé pas mal. C'est-à-dire que la Xbox se transforme en objet qui est complètement différent de ce à quoi elle est destinée au départ, qui est le jeu. Ouais. Là, on est dans la consommation de médias, d'accord, et je trouve ça plutôt sympa.
Ok, bon, Yann, on t'a interrompu plusieurs fois, vas-y.
Et la AirDrone 2.
Oui, la AirDrone 2, mais enfin bon.
Ok, une belle mise à jour, c'est tout.
Non, c'est juste que, voilà, je me dis que, et pourtant je suis vraiment pas un fan d'Apple, mais on sait qu'Apple va bientôt faire son annonce sur l'Apple TV, tout le monde imagine toutes sortes de choses incroyables. Steve Jobs a même dit qu'il a réussi à he cracked it. So il a trouvé le truc pour rendre l'expérience télévisuelle incroyable, enfin appelienne. Et donc on s'attend à ce qu'il frappe très très fort. Et donc du coup, moi je m'attendais à ce que au CES les concurrents prennent les devants et coupent finalement les jambes à Apple sur ce truc-là. Et finalement, ils sont sortis avec quelque chose auquel on s'attendait. Voilà, commande vocale au niveau de la télévision, mais on voit quand on regarde les vidéos que c'est pas complètement au point. Des fois, il y a des interférences. On n'a pas l'impression que
c'est filmé au salon aussi, quand même. C'est filmé pendant le CES. Si c'est aussi bruyant chez toi, bon.
C'est vrai que d'une certaine manière, on a senti un petit peu comme avant l'annonce de l'iPad. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans, on savait que Apple allait sans doute annoncer son iPad. Moi, je suis pas certain qu'ils vont annoncer leur télévision aussi vite que beaucoup de gens le croient, parce qu'il y a un gros problème avec la gestion du contenu et les droits du contenu. Mais bon, c'est encore notre problème. On pensait effectivement tous que Apple allait annoncer son iPad. Et donc, on sentait en fait l'industrie qui essayait de contrer l'iPad sans vraiment savoir ce que ça allait être. Donc, ils sortaient des sortes de tablettes qui étaient un petit peu différentes, mais pas vraiment, mais machin. Et quand l'iPad est arrivé, on s'est dit « Ah, ok, donc c'est ça qu'ils font. Ok, donc oui, là, on comprend que ce qui a été fait avant, c'était genre en essayant d'anticiper, mais on n'y arrivait pas. » Et c'est vrai que ce qu'on a vu comme technologie sur les télévisions pendant ce CES, ça sent un petit peu de la même popote, quoi. Alors je suis pas sûr que ça sera le cas, mais ça me surprendrait pas que si Apple sort finalement sa super télé amazing révolutionnaire, on se dise a posteriori, ah bah ouais, au CES de cette année, il y avait des trucs qui avaient l'air de vouloir répondre à ça avant qu'ils n'arrivent, mais ils n'ont pas vraiment eu une vision assez claire, ou ils n'ont pas réussi exactement à faire ce qu'ils auraient voulu faire.
Mais donc, tu vois, si l'Apple TV, si la télé d'Apple, pardon, c'est la même chose que l'Apple TV avec des applications en plus, par exemple.
Non, mais c'est le principe, c'est qu'on sait pas ce que ça va être.
Mais
et à vrai dire, moi
que
j'y crois même pas énormément, je suis pas certain qu'ils réussiront à faire un truc qui...
Si c'est le contenu d'iTunes sur ta télé, c'est bon, on l'a déjà, quoi, avec l'Apple TV,
et
franchement,
ça
a aucun intérêt. Enfin,
c'est pour ça que je te dis...
En dehors des podcasts,
C'est pour ça, Cédric, si c'était ça, ils l'auraient déjà sorti. C'est pour ça que je pense qu'ils sont en train de gérer des questions de droit avec des contenus, avec des créateurs de contenus, et qu'il y aura autre chose.
Ouais.
Et ils peuvent pas juste sortir ça parce que c'est déjà l'Apple TV et ça serait
ridicule. Mais si c'est ça avec juste la commande vocale Siri ou je sais pas comment ils veulent l'appeler, mais dans ta télé, excuse-moi.
Non, mais bien sûr, mais c'est le principe, c'est que a priori ça ne sera pas ça, mais c'est ça l'idée, c'est qu'on sait pas vraiment ce que ça va être et que tout le monde a du mal à imaginer. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde essaye d'imaginer de la même manière que avant la sortie de l'iPad, tout le monde essayait d'imaginer l'iPad. À la limite, ce que ça sera vraiment n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vous dis, je suis pas certain vraiment d'y croire, de croire que ça sera quoi que ce soit d'intéressant. Mais pour l'iPad, à la limite, avant qu'il sorte, le fait que l'iPad sorte, on savait pas. Mais on s'est rendu compte ensuite que les constructeurs au CES qui a précédé l'annonce de l'iPad essayaient de chercher un truc et qui n'ont pas réussi. Et là, pour les télés, j'ai l'impression que les constructeurs de télé essayent de chercher un truc poussé au cul par ces rumeurs de l'Apple TV, de l'ITV, qui, si ça se trouve, n'existent même pas encore, et que, je sais pas, moi, ça m'accroche pas, quoi. Donc,
bon, à voir.
À voir, à voir. Et donc, bon, Cédric, visiblement, est séduit par la sorte de peinture des tendances, de peinture des tendances futures de la technologie, qui a été brillamment démontrée au CES.
Non, mais regarde, s'ils font des télé OLED de 55 pouces, demain, ton ordinateur portable pourra bénéficier de la même techno, tu vois.
Ah, mais c'est ça serait génial. Ah non,
sur
mais alors,
technologique,
attention.
Je trouve qu'il y a eu vraiment des innovations.
Je vais répéter ce que j'ai dit, Cédric. Je suis très excité par certaines choses, mais c'est des choses qui ne sont pas, si tu veux, pour moi, traditionnellement, CES, c'est ce qui va sortir genre là, quoi.
Oui, oui, oui.
Les possibles technologies qui vont sortir bientôt.
Oh non, mais c'est
genre
la crise,
dans un
Patrick.
An. Bon, c'est vrai, c'est la crise. C'est vrai. Bon, écoutez, on va enchaîner avec une autre énorme histoire qui a fait une énorme polémique et qui devient un petit peu plus technophile pour les technophilisants. C'est cette histoire de Google Search Plus Your World. Qui en fait, pour résumer, c'est l'annonce de Google qu'ils entrent enfin dans l'arène de la recherche sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusqu'à il y a 2-3 ans, le prince du net, c'était la recherche. L'élément le plus important d'Internet, c'était d'avoir un moteur de recherche qui puisse vous permettre de trouver ce que vous cherchiez. Et pour faire ça... la chose à savoir faire, c'était lire, je schématise, hein, mais lire toutes les pages qui existent sur Internet, en extraire des valeurs d'importance et ensuite les présenter aux gens qui recherchaient différents termes. Il y a, en quelques années, les choses ont un petit peu changé parce que il y a un autre élément qui est rentré dans la valse, c'est les réseaux sociaux. Et les gens très très forts dans les réseaux sociaux, c'est bien sûr Facebook et Twitter. Et
ah non, c'est Corben.
C'est Facebook, Twitter et Corben. Et le truc important là-dedans, c'est que si vous cherchez quelque chose et que certains de vos amis s'y sont déjà intéressés, ils ont peut-être une idée de ce qui pourra vous intéresser aussi. Et ça avait une énorme importance pour Google, qui est, comme tout le monde le sait, qui fait tout son beurre sur la recherche. C'est que ils avaient peur de ne plus être aussi d'avoir des résultats aussi valides s'ils n'avaient pas un élément de réseau social. Alors bien sûr, ils ont lancé Google Plus il y a quelques mois de ça, qui a eu un succès certain. Certains n'y croyaient pas du tout, et en fait, on a tous été étonnés de voir que c'est plutôt pas mal Google Plus, que ça fonctionne plutôt bien. Et là, j'en viens au sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que ils ont intégré certains des résultats de Google Plus dans les résultats de vos recherches classiques, ou en tout cas, ils sont en train de les intégrer, hein, c'est pas arrivé partout dans le monde encore, mais ils ont intégré ces résultats de Google Plus dans vos résultats de recherche classiques. Par exemple, je donne un exemple. Si vous faites une recherche No Watch, une recherche sur le terme No Watch, jusqu'à maintenant, vous auriez obtenu le résultat nowatch.net, peut-être Twitter, le Twitter No Watch, et puis Dieu sait quoi, un épisode du Rendez-vous Tech et de Geek Inc. Au hasard, des pages de ça. Eh ben aujourd'hui, si No Watch a un compte Google Plus, eh ben peut-être que vous allez voir ce compte Google Plus mis en avant, et mis en avant de manière beaucoup plus claire que
ostensible,
d'autres résultats, beaucoup plus ostensible que d'autres résultats. En voyant ça, Facebook et Twitter ont eu une sorte de mini-attaque cardiaque, à peu près justifiée, parce qu'ils se sont dit « Oula, Google est en train de nous sortir du jeu ». C'est-à-dire que si jamais, effectivement, vous faites... le résultat de la recherche que vous avez lancé pourrait être intéressant sur Twitter ou Facebook, Google ne va pas vous le présenter, mais va vous présenter le résultat qui est présent sur Google+. On donne un exemple qui est peut-être un petit peu plus parlant que celui de No Watch. Si vous cherchez, vous faites une recherche sur Britney Spears, eh ben, le meilleur résultat pour Britney Spears, c'est peut-être son compte Twitter, c'est peut-être sa page Facebook où elle a plus de millions de fans que son compte Google+, où il y a beaucoup moins de fans et où elle est beaucoup moins active. Mais étant donné que Search plus Your World ne prend pas vraiment en compte Facebook et Twitter, eh ben vous verrez jamais ces résultats-là. Donc c'est Tinus dit dans la chatroom, Patrick a regardé tweet. Pas vraiment, Patrick a lu Search Engine World de Dan Sullivan, comme tous les gens qui suivent l'actu de l'actu tech, et c'est lui qui a donné cet exemple de Katy Perry. Donc effectivement. Ça peut être un désavantage énorme pour Google, pour Twitter et Facebook, et surtout ça peut départir Google de son principe de base qui est vous offrir les résultats les plus valides. Autre point extrêmement important, c'est que suite à ces accusations, Google a dit ah bah oui mais vous êtes gentil, Facebook et Twitter, vous nous donnez pas accès à toutes vos données, donc comment vous voulez qu'on les indexe? Sauf que il y a énormément de données sur Facebook et Twitter qui sont publiques, même s'ils n'ont pas accès à toutes les données de Facebook et Twitter, et ils ont choisi de ne pas utiliser ces données publiques. Alors je résume, mais en gros, certains ont interprété la chose comme une sorte de coup de poker de Google pour craquer l'armure de Facebook et les obliger à ouvrir le mur qui protègent leurs données les plus importantes, qui sont les données de réseau social de leurs utilisateurs. Et a priori, bon, on ne sait pas très bien comment ça va évoluer, mais en gros, c'est vraiment une sorte de bras de fer par réseau social et moteur de recherche interposé que se livrent aujourd'hui Google et Twitter et Facebook pour avoir accès aux données de l'autre et pour protéger les données qui leur sont extrêmement chères. J'ai fait un bon résumé,
oui, c'est vrai, oui, Yann, ouais. Oui, c'est juste que je trouve que, enfin, personnellement, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien.
Ouais.
Je fais partie de ces gens qui pensent que voilà, quoi, Google a fait son moteur de recherche. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ça me rappelle un petit peu cette histoire qu'il y avait eu avec Windows. Oui, mais pourquoi on peut pas avoir Firefox et Google Chrome direct dans quand on installe un nouveau Windows, il faut avoir le choix, etc. Donc ils ont forcé Microsoft à rajouter ces installations. C'est l'exploitation de Microsoft, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pareil ici en l'occurrence pour Google. Sachant en plus que
à une nuance près quand même, c'est que oui, si tu veux, quand t'achètes un ordinateur dans le commerce en général, tu as pas trop le choix que d'utiliser Windows en fait, tu vois.
C'est
alors que sur Internet,
ça,
quand tu fais la recherche sur, quand tu veux faire une recherche sur Internet, tu as quand même le choix du moteur, tu vois.
C'est un problème de position dominante et éventuellement d'abus de position dominante. En l'occurrence, Google a clairement une position dominante, en tout cas en Europe. Et alors oui, en théorie, ils auraient le droit. Et certains d'ailleurs ont dit ça. Certains ont dit, bah Google, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi une question de position dominante. Et ce qui est marrant, c'est que certains ont tout de suite pointé du doigt Bing en disant, ah bah oui, mais les gens peuvent aller chez Bing. Voilà, ça va donner du départ de marché à Bing. Sauf que Bing, ils ont un accord avec Facebook et que donc ils ont les données de Facebook. Donc ouais. C'est marrant voilà. Parce que là aussi, il y a un autre type d'accord qui entre en ligne de compte, quoi.
Exactement.
Mais après, t'as raison, Yann.
Juste une dernière chose, c'est que bon voilà, pour moi ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Et juste la deuxième chose, c'est que alors là c'est plus un point de vue de développeur, mais quand on développe une application, un site web ou ce qu'on veut, tous les éléments auxquels on va devoir se connecter pour enrichir notre système, si on les a sous contrôle, si on peut maîtriser toute la chaîne de production, on peut faire un produit qui est beaucoup plus évolué que si on doit se connecter à des éléments qu'on ne maîtrise pas. Donc, en clair, ce que je veux dire, c'est que si jamais Google Search plus Word devait se connecter à Facebook et à Twitter, ça ramènerait le produit final vers le bas, puisque ben, si un des trois éléments ne supporte pas une fonctionnalité, ben, du coup, on la coupe. Parce qu'on veut avoir une interface uniforme partout.
Oui, bon, donc, là, c'est pas exactement. C'est juste un accès. C'est juste un accès aux données qu'ils demandent et l'accès aux données.
Ben, écoute, l'API de Facebook a une gueule, celle de Twitter en a une autre. On a des accès qui sont limités. Elles ne renvoient pas toutes les mêmes choses. C'est un trésor de guerre. C'est très compliqué. Donc, allez vous faire foutre. Moi, je vais faire mon truc sur mon Google Plus et puis voilà quoi.
Je te suis un peu, Yann, dans le sens où. Après tout, enfin, Google a jamais, enfin, évidemment, on utilise Google aujourd'hui parce que c'est celui qui nous fournit, enfin, quoique ça reste à vérifier sur certaines requêtes, mais qui nous fournit les résultats que l'on juge les plus pertinents et les plus efficaces. Si demain ils décident d'intégrer Google, enfin, dans leur résultat Google Plus, grand bien leur fasse, mais si quelqu'un va faire une recherche effectivement sur des données qui sont sur Facebook ou sur Twitter, ben, ils utiliseront autre chose. Et si tu veux, si Google voit qu'au bout d'un moment,
les résultats en souffrent, ouais.
Les résultats en souffrent et puis surtout ils perdent des parts de marché parce que des gens cherchent des infos sur Twitter et pas sur Google+, ils reverront leur politique, mais comme toute société commerciale, parce que ils font du beurre avec le avec les Google Ads, enfin les AdWords, ben si tu veux, je vois pas pourquoi on leur reproche aujourd'hui de faire ça et de pas favoriser leurs petits copains, tu vois, enfin ouais.
Oui,
moi je trouve que c'est un peu un faux procès. Google est pas une entreprise, enfin c'est pas Wikipédia Google.
C'est marrant parce qu'effectivement moi je suis un petit peu entre les deux, mais Jérôme dans la chatroom disait bah oui mais non moi Google, le principe de Google c'est que ils doivent me fournir le meilleur résultat possible sans aucune influence de décision, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'ils ont vendu, le rêve qu'ils ont vendu au public avec leur sacro-saint algorithme. Il y a aucune intervention humaine, c'est l'algorithme qui décide tout et on essaye d'être aussi objectif que possible. Maintenant, il est vrai que si jamais ils décident de changer leur fusil d'épaule et de dire oui, bah maintenant on a Google Plus, donc on pousse Google Plus, bah voilà, quoi, les choses sont comme ça. Il faut le savoir, mais il n'y a pas non plus de loi qui dit Google doit fournir le résultat le plus objectif possible.
Ah bah.
Bon, voilà.
À la limite, si c'était une entreprise payée par nos impôts.
Ouais.
Je dis pas. Tu vois, s'il y avait un vrai intérêt public, et c'est pas une ONG, quoi, enfin.
Ouais, non, c'est sûr,
autant Wikipédia, ça m'emmerde quand je vois j'ai dit un gros mot. Ça m'embête quand je vois des articles défigurés ou sur lesquels il y a des choses écrites n'importe comment, parce que Wikipédia, tu vois, je le considère plus comme quelque chose qui est un vrai service au public. Alors que Google, pour moi, c'est pas un service.
Oui, mais enfin, Wikipédia, c'est une organisation.
Je sais que c'est une organisation, mais si tu veux, à la limite, ça m'embêterait plus que
ouais,
de voir ce genre de choses sur Wikipédia.
Ouais, mais je crois qu'il y a quand même ce rêve, ce fantasme de Google neutre, tu vois. C'est un petit peu quand même. Non, mais je sais que je t'explique pourquoi les réactions sont aussi violentes. Et je crois qu'il y a quelque chose de. Tu sais, par exemple, quand il y a eu ce scandale dont je vais pas, même pas ce scandale, mais cette histoire dans laquelle je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, il y a eu une accusation selon laquelle Google aurait favorisé les recherches qui menaient vers son navigateur Chrome par des méthodes un petit peu malhonnêtes. Eh ben, immédiatement, ils ont réagi en dépréciant la note de la page de Chrome de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas aussi bien placée dans les résultats, en punition de cette impression que les gens avaient eue que Google avait favorisé le truc. Donc, il y a quand même une volonté de Google de montrer que leurs résultats de recherche sont les plus purs possibles. Ensuite, ce que ça veut dire pur, on ne sait pas.
Parce qu'en fait, c'est leur forme de commerce, sinon on ne les utiliserait pas.
Exactement. Donc, il est compréhensible que quand on voit qu'ils favorisent de manière aussi importante leur réseau social, les réactions soient un petit peu interloquées, quoi. C'est comme s'ils favorisaient.
Dans ce cas-là, fonce ailleurs. Tu vois,
oui,
la concurrence.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
Enfin, voilà. C'est ça qui me fait, pour moi c'est un faux débat, quoi, enfin ouais.
D'accord.
Ils font ce qu'ils veulent, quoi.
Bah,
et en aucun cas, enfin évidemment si le produit qu'ils nous vendent entre guillemets est pas bon, ben on ira voir ailleurs, mais
pour moi
il n'y a pas un engagement contractuel, j'ai rien signé pour que Google
me rien signé avec Google.
Ben non, mais c'est vrai, enfin tu vois ce que je veux dire.
D'accord, ok, bon, écoute. Moi, je pense qu'il y a quelque part une sorte de dénoncer du principe de la vie de Google, et que quand il s'en écarte, il est pas étonnant qu'on soit interloqué. Mais bon.
Oui, mais pff, c'est
ouais,
ça.
D'accord. Bon, au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est de cette manière dont il se livre vraiment un bras de fer avec Facebook et Twitter, et c'est ça qui est derrière, quoi. Au-delà du fait que Google puisse ou ne puisse pas faire ce qu'ils veulent. C'est la sorte de pied de biche qui permettrait de forcer l'ouverture de Facebook.
Donc voilà. Autre chose dont je voulais parler rapidement, c'est peut-être l'arrivée d'un e-book gratuit avec un abonnement d'un an. On parle de Barnes & Noble qui a sorti son Nook, qui est leur e-book. Et ils veulent aujourd'hui, pour un abonnement d'un an au New York Times, vous offrir un Nook. Je voulais juste le mentionner rapidement parce que c'est le début c'est d'un truc qu'on avait prédit il y a un certain temps. Les e-books gratuits et la prochaine étape, c'est les tablettes. Et ça commence. Moi, je trouve ça assez intéressant.
Oui, c'est vachement bien.
Ouais.
Autre chose hyper intéressante, c'est l'app anti-SOPA sur Android. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Ouais, c'est le
scanner. Nouveau.
Mais la manière dont ça a été implémenté, voilà, en fait, comme le disait Yann, c'est un scanner. Vous connaissez SOPA, hein, je ne vais pas repartir dans les détails, c'est une loi qui serait catastrophique pour la structure du net et qui est poussée par les ayants droit de contenu. Voilà, c'est une sorte de méga Adopi. Il y a une app qui est sortie sur Android qui vous propose de scanner n'importe quel objet, enfin n'importe quel article dans votre magasin et de voir immédiatement si le producteur ou le fabricant de cet article est une personne qui soutient SOPA ou pas. Et ce qui m'a vachement intéressé là-dedans, c'est que c'est une idée hyper simple, relativement facile à mettre en place, pas hyper facile, mais relativement facile, et qui pourrait vraiment, pour moi, si c'est développé et appliqué à toutes sortes d'autres choses, devenir un instrument intéressant
dans le consommer citoyen.
C'est ça, l'application de la citoyen, de l'acte citoyen, de la contestation citoyenne. C'est-à-dire que, imaginez par exemple que vous ayez une loi aujourd'hui. Bon, en France, on a moins de lobbying, mais il y en a quand même un petit peu. Une loi qui soit, moi qu'aux États-Unis. Hein.
Mais après, ça dépend dans quel domaine. Hein.
Ouais, c'est vrai. Lionel G nous dit voter avec son porte-monnaie, comme tu le disais, la boucle est bouclée. Bah effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Adopi 2 qui va être voté, ou Adopi 3 parce que 2 a déjà dû passer. Oui. Et il y a des sociétés qui sont pour, des sociétés qui sont contre. Vous avez votre petit smartphone, vous scannez votre boîte de petits pois et ça vous dit les gens qui produisent ces petits pois plutôt que les autres, eh ben ils sont bon. Adopi ça ils marche forcément Adopi. Pas avec avec les petits pois. Mais par exemple, vous êtes contre la politique agricole commune. Il y a des producteurs qui sont pour et d'autres qui sont contre. Vous achetez les produits de ceux qui sont pour. C'est vraiment voter avec son porte-monnaie et c'est une manière de rendre ça tellement facile que ça pourrait vraiment, avec un certain buzz sur le net, avoir peut-être des conséquences sur la démocratie, non?
C'est pas nouveau dans le sens où tu vois quand il y avait toutes ces histoires de c'est un appel au boycott ni plus ni moins, sauf qu'au lieu d'avoir une liste que tu vois sur un site internet ou une liste papier, c'est une application. Mais
liste au boycott, c'est comme si tu veux là c'est tout dépend des outils que tu as l'application tu vois si tu es
c'est
dans
juste,
ton
c'est
magasin
c'est une version moderne de boycott que du boycott à la papa, tu vois.
Oui, mais une calculatrice électronique, c'est une version moderne de ta feuille de calcul.
Non, mais tout à fait. Mais si tu veux, en soi, c'est pas nouveau et je trouve plutôt intéressant. Comme ceux qui soutenaient, comment il s'appelait, celui qui était en face d'Obama, McCain,
ouais.
Ouais, dont une partie de la famille était le producteur de ketchup Heinz ou je sais pas quoi, et que du coup des gens boycottaient le ketchup Heinz. Enfin, tu vois, ça va très très loin, hein. Mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est le coup du ketchup.
Ouais, c'est le coup du ketchup. Okay,
le titre de l'épisode, ça. plus gros qu'une pièce de 2 €.
Moi, j'ai frivant du beurre aux Allemands quand même.
Aussi, ouais, c'est pas mal.
Bon, Yann, je te sens pas inspiré non plus, donc.
Non, je trouve que c'est très bien. Ce serait cool qu'on puisse laisser aussi des commentaires et que ça puisse s'ouvrir à d'autres trucs, quoi. Si jamais tu t'es pour le commerce équitable, tu scannes et on te dit, ce produit ne correspond pas à la philosophie du commerce équitable ou a été fait avec de l'OGM. Que tu puisses même laisser des commentaires. Écoute, j'ai goûté, c'est dégueulasse. Donc voilà, quoi.
Le nombre de Chinois qui se sont suicidés quand tu scannes un iPhone, par exemple.
iPhone, ouais, c'est ça.
Ce genre de truc, quoi.
Non, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que c'est l'idée qui est intéressante et que ça pourrait être développé ensuite. Mais bon. Absolument. En parlant d'iPhone, alors il était censé y avoir un événement Apple sur l'éducation et la révolution des e-books, des iBooks qui vont tout à coup transformer les manuels scolaires. C'est vrai que c'est un truc qui pourrait être intéressant, mais leur annonce, je sais pas quand elle est, mais elle a pas encore commencé, donc je sais pas ce qu'ils foutent. Donc on vous en parlera sans doute une autre fois. Hein, personne n'a d'infos là-dessus. Hein. C'est...
Non, je... non.
Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Et donc, on arrive à la pause de l'émission qui s'est allongée, mais on va faire très vite parce que Yann doit partir bientôt. Donc, je vais vous dire très rapidement que notre sponsor, c'est la boutique NoWatch et que la boutique NoWatch, c'est très bien. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur nowatch.net. Et sur nowatch.net, vous allez voir un petit lien qui vous mènera vers la boutique. Ça s'appelle la boutique parce que les choses sont bien faites. Vous cliquez sur la boutique.
On trouvait que c'était plus clair.
Voilà, quand même. Plutôt que de l'appeler... comment ?
Je sais pas.
Les t-shirts Geeking.
Ouais, voilà.
Alors en fait, je vous dis les t-shirts Geeking parce qu'il y a les nouveaux t-shirts Geeking qui sont arrivés enfin sur la boutique avec le nouveau logo Geeking qui a quoi ? 8 mois ? Quelque chose
oh
comme ça ?
Oh non !
À peu près ? 6
Sept.
Mois ? Ouais, c'est
Sept.
Ça. Et moi, j'ai un petit coup de cœur pour comment ça s'appelle ? Le truc pour bébé, là ? Le body pour
ah,
bébé.
Ah oui, le body, oui.
Qui est très mignon. qui a le petit Geeking orange et blanc tout mignon, juste à côté du body bébé Killure TV. moi, je le trouve pas mal. C'est un petit peu violent comme message pour un bébé, mais je pense que ça le fait quand même parce que les bébés de No Watcher, c'est des warriors.
Donc, ouais, et à noter aussi quand même dans la collection Geeking, il y a le Magneto, qui va devenir mythique, je pense, avec notre petite saucisse Magneto qui est dispo dans la boutique.
Exactement. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et en plus, comme vous le savez, ça nous aide à produire certains événements, comme par exemple la Comic-Con de l'année dernière, où certains d'entre vous étaient, le Comic-Con de l'année dernière, où certains d'entre vous étaient présents. J'espère qu'on aura le même cette année. Et sachez-le, si on y arrive, c'est aussi parce que vous nous soutenez de cette manière. Donc, merci à vous.
Yep.
Et on arrive aux news et rumeurs, enfin aux Zap Info. Et dans le Zap Info, vous le savez, je lis très rapidement les quelques news rapides qu'on a sélectionnées. Et vous m'arrêtez si vous voulez faire un commentaire là-dessus. Vous allez voir, il y en a qui sont plutôt sympathiques. Première Zap Info, le copimisme...
Non, je déconne, je vais t'arrêter vraiment.
Le copimisme est désormais une religion officielle en Suède. Alors le copimisme, c'est l'Église qui juge comme sacré l'acte de copier, disant que la copie, les données sont un élément sacré de leur religion et que le fait de les copier est un acte religieux et donc que ça ne peut pas être interdit. Évidemment, c'est à moitié une blague, à moitié sérieux, mais ils espèrent, ces gens-là, ces Suédois, que ça leur permettra de faire valoir la cause de la copie, du droit à la copie, un petit peu plus facilement. Ils sont beaucoup battus pour la faire accepter comme religion officielle.
Tu m'étonnes.
On peut l'imaginer. Mais vous pouvez donc devenir, je ne sais pas comment, copimiste. Si vous êtes adepte,
ouais, je pense.
De cette religion. HP, on a enfin su pourquoi HP n'a pas réussi à vendre Palm avec son WebOS. Il semblerait qu'ils aient voulu le revendre au prix d'achat, je crois que c'était 1,2 milliard de dollars.
Mais ils sont fous.
Au prix d'achat, un an après l'avoir acheté à 1,2 milliard de dollars et après l'avoir
tué.
Rien fait avec et l'avoir à moitié tué. Donc évidemment, ils n'ont pas réussi à le vendre. En même temps, comme ils l'ont ouvert en open source, ils ont un petit peu le meilleur des deux mondes. Mais bon, on se doutait qu'ils n'auraient pas réussi à le vendre au prix où ils l'ont acheté. Genre, je t'achète ta caisse, je m'en sers pendant un an, je te la
bille
un petit peu.
Je te
sur
ta caisse et je te la revends au même prix.
Je te la revends. Tu vas, okay, tu vas me regarder bizarrement, on va dire.
Attends, je m'appelle Orange, je suis opérateur, j'ai l'habitude, les marges, tout ça, je te vends du service avec. Et normalement, tu la rachètes.
Voilà. Internet Explorer 6 est enfin passé à moins de 1% de part de marché aux États-Unis.
Alléluia.
Alléluia. Et ce qui est marrant, c'est que même Microsoft s'en est félicité. C'était plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Encore un fabricant, à propos de Microsoft, encore un fabricant Android qui paye Microsoft. Cette fois-ci, c'est LG, je crois.
Ouais, je crois que c'est LG.
Je crois que c'est LG. Oui, c'est ça, c'est LG. Et donc, ils rejoignent HTC, Samsung et Acer, ce qui fait que il y a maintenant 70% des appareils sous Android qui payent des royalties pour les brevets à Microsoft. Et le plus fort, c'est que Microsoft fait une sorte de chantage aux brevets. On ne sait toujours pas quel brevet Android est censé enfreindre. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais Microsoft reçoit des sous dessus. Enfin, aujourd'hui,
c'est en prévention de procès en fait.
Exactement.
C'est en prévention de procès, c'est-à-dire que en gros, Microsoft leur dit soit vous payez, soit vous avez droit à un magnifique procès qui va vous coûter bien plus cher que les X euros que vous me payez par mobile vendu, quoi.
Voilà. Et donc maintenant, Microsoft, que vous achetiez un Windows Phone ou un Android, il y a des chances qu'ils se fassent des sous de toute façon.
La de politique toute façon. Et peut-être même que quand tu achètes un Windows Phone, ils perdent de l'argent.
C'est possible. Pardon, Yann ?
Non, j'avais lu que en fait, Microsoft a fait plus d'argent avec ces brevets-là qu'en vendant des Windows Phone. Donc c'est en fait, ils font plus de thunes avec Android qu'avec
Oui, aujourd'hui, c'est vrai. Windows
Phone. Ouais,
c'est incroyable.
C'est plutôt, on va dire, comique. Une petite news qui nous a été... fourni sur le Reddit de l'émission. Si vous n'avez pas Reddit, c'est un système où vous pouvez proposer des news et voter. Même si vous ne voulez pas proposer des news, vous pouvez voter up ou down pour les faire monter dans le classement. Il y a des gens qui sont très actifs là-bas, comme Will Nock et N Février, qu'on remercie. Il y a Tinus aussi, enfin il y en a d'autres. Donc merci à vous. Le lien est dans l'article de l'émission. C'est le problème, une solution au problème de l'absence de musique classique libre, parce que vous savez que les droits des partitions, enfin de la musique classique est bien sûr libre depuis longtemps, mais comme il faut payer la performance aussi, il n'y a pas vraiment de musique classique libre et utilisable par n'importe qui sans droit. Eh ben, il y a un projet Kickstarter, qui est ce système qui vous permet de proposer des projets et de les faire financer ensuite, qui s'appelle Music Open, qui serait le fait de permettre aux internautes de financer collectivement la location d'un orchestre symphonique qui jouerait des morceaux pour le domaine public. Et donc, tous ces morceaux seraient tout à coup libres et utilisables par n'importe qui. Donc c'est un projet plutôt intéressant. Moi j'espère qu'il va réussir cool, à se monter, et surtout qu'il pourrait y avoir d'autres types de projets de ce genre-là qui pourraient se monter, parce que c'est vrai que la musique souffre un petit peu de l'absence de libre, et là c'est un système qui pourrait parfaitement marcher, quoi. Voilà, espérons que ça réussisse. Encore une ou deux petites choses. Kodak risque de bientôt faire sa demande de Chapter 11. Chapter 11, en gros, c'est mise en faillite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer, mais ça veut dire qu'ils sont bien dans la merde. Et pour Kodak, qui est une société qui a 130 ans, 131 ans, c'est un petit peu dommage. Je me souviens encore des premiers appareils et des films Kodak. C'était plutôt des bons souvenirs.
Ouais, après, ils ont mal négocié le virage du numérique, mais bon.
Ah bah, carrément, oui. C'est encore une histoire d'une industrie qui n'arrive pas à sentir le vent tourner et qui s'accroche aux anciens.
Ouais, et puis des fois ça se joue à peu de choses, hein. Quand tu vois dans l'état dans lequel est Nokia aujourd'hui, c'est juste parce qu'à une époque l'écran tactile pour eux c'était absolument pas une priorité, même les téléphones à clapet ça servait à rien pour eux. Sauf qu'en fait tous les concurrents en faisaient, et Samsung le premier, et on voit ce que ça a donné, quoi.
Ouais. Dernière chose, allez, je vais laisser toutes les autres dans le sac pour peut-être une prochaine fois, mais une dernière chose, c'est un projet intéressant de la Suède, figurez-vous, encore eux, qui a fait un truc marrant avec leur compte Twitter officiel. C'est @Sweden, hein, vous reconnaîtrez le nom de la Suède en anglais. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils... Ouais, je sais, je suis un petit peu anglophone, tu vois, moi je parle bien anglais. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont... donner le contrôle du compte @Sweden à une personne différente, une personne suédoise différente par semaine depuis quelque temps. Ils vont continuer à le faire. Et c'est un Suédois sélectionné qui n'est pas complètement, comment dire, complètement contrôlé. Hein, c'est pas un truc de RP encadré. C'est un mec, il a le contrôle du compte officiel de la Suède et il en fait ce qu'il veut. Pendant une semaine. Bon, j'imagine qu'ils sélectionnent pas n'importe qui non plus, mais ça veut pas dire qu'ils sont derrière à tweeter pour lui après. En ce moment, c'est une jeune fille qui est une jeune fille lesbienne conductrice de camion, comme quoi ils font pas forcément dans le dans le l'absence de stéréotypes, mais une camionneuse lesbienne, bon, mais
oh non, alors c'est quoi ces clichés?
Non, ben justement, c'est un cliché un petit peu débile, mais bon, pour le coup, voilà. Mais c'est la jeune fille qui dit Hi, I'm just your average Swedish lesbian truck driver. Donc voilà. D'accord. Et avant, il y avait un monsieur qui élevait des moutons, qui filmait ses moutons dans la campagne. Enfin bref, c'est un truc un petit peu bizarre, mais chaque semaine, il change la personne qu'il gère, et c'est un moyen de montrer au monde que la Suède est diverse et qu'il y a plein de personnes différentes, etc. C'est plutôt marrant France, comme projet, quoi.
Pour la France, ils veulent pas me le donner, là, j'ai deux, trois trucs à
dire. J'ai deux, trois trucs à dire. Bah, Ad France, c'est Musique de France, tweet musique, toutes les dernières nouveautés en France, le jour de sa publication, il y a 1000 followers et un following. Alors, je sais pas ce que c'est Ad France, mais voilà, c'est eux. Moi, je me dis, ça serait pas mal que notre gouvernement le récupère. Peut-être qu'il pourrait payer
ou pas.
Ah, mais ça, non, mais en dehors de, quand je dis notre gouvernement, je parle pas du gouvernement Sarkozy, je veux dire que le gouvernement français est le Twitter de la France.
Bah, arrête, le gouvernement français, mais on a Adopi, nous, qu'est-ce que tu parles? On a fait Adopi, qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent un compte Twitter à France? Enfin, ça leur viendrait pas. Comme s'ils allaient faire un site internet France. Ah non, ça, ils l'ont fait.
D'accord, ok. Bon. Ok, bah écoutez, je crois qu'on peut conclure sur cette petite plaisanterie de notre Cédric Bonnet national. Pour conclure, je vais vous laisser exactement 30 secondes par personne pour nous dire où on peut retrouver votre excellente humeur quand vous n'êtes pas sur le rendez-vous tech. On va commencer par Yann.
Bah écoutez, ça n'a pas changé, c'est toujours sur yannallet.com, yannallet.com pour mon site web et pareil pour mon compte Twitter.
Super. Et Cédric Bonnet, que fais-tu sur l'internet?
Pouh, je dis plein de bêtises.
On a remarqué, ouais. T'as fait une bonne démonstration.
Ouais, ouais. On me retrouve sur nowatch.net dans divers podcasts. Et en particulier Geeking, donc avec sa nouvelle formule et tout, machin. On est encore en rodage, hein. On a sorti un numéro et là bientôt un second. Mais voilà, donc on essaie de s'améliorer d'émission en émission, comme dirait les Scuds. Et feu les Scuds. Et sinon sur Twitter, c'est @CédricBonnet, tout attaché, et Bonnet comme le chapeau qu'on met sur la tête en ce moment parce qu'il fait très froid.
Merci Cédric. Pour ma part, écoutez, vous retrouvez tous les liens sur l'article de l'émission, donc je vais pas vous embêter avec ça. Je vais simplement vous encourager à nous laisser un commentaire sur iTunes parce que vous le savez, ça peut aider d'autres personnes à nous découvrir, comme l'ont fait Cédric Debac, CNB ou HBTVS, qui nous ont mis tous les trois, c'est les derniers commentaires, ils nous ont tous les trois mis 5 étoiles et des commentaires sympathiques que j'ai pas le temps de lire, mais je vous en remercie quand même. Je vous invite aussi à venir nous retrouver sur nowatch.net et à nous laisser des commentaires si vous trouvez qu'on a dit des bêtises ou si vous voulez nous encourager à continuer à dire des bêtises, hein, vous avez le choix. Sur nowatch.net, il y a les articles de l'émission avec le streaming live et tout ça. Et tant que vous y êtes, allez donc regarder d'autres émissions parce qu'il y en a plein qui sont sympathiques. Au hasard, Will & Co, Season 1, Games in the Pocket et plein d'autres qui sont vraiment bien. Donc vous pouvez flâner là-dedans et vous trouver des trucs plutôt cool. Je termine en remerciant une fois de plus et grandement la chatroom qui est restée là nombreuse et active. Je vous fais donc de grosses bises à vous tous et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous tech. Ciao à tous, merci.
Ciao,
à bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.